Par la présente et au nom de la culture, du divertissement et de la communication, je déclare la troisième centaine d'émissions du supplément week-end ouverte.
Radio Éphémère présente. Le supplément week-end. Le magazine des cultures geeks. Avec du sport. Ultimatum. Das Rich. Et la participation exceptionnelle de JB.
Bonjour à vous, bonjour à vous, bonjour, 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 ah, bonjour, bonjour mieux. Thomas, ah, tu es un petit peu trop à gauche.
Bonjour,
excuse-moi, bonjour. Excuse-moi, qui n'est pas, enfin bon,
trop à gauche.
Voilà. Comment vas-tu Thomas?
Eh, ça va bien Xavier, ça fait bizarre de revenir ici puisque ça fait une interruption de 3 semaines pour moi je crois.
Pour nous tous.
Ah oui.
Moi j'ai fait un service minimal la semaine dernière. C'est vrai qu'il y a eu 2 semaines de direct en extérieur à la radio. Et que la semaine dernière on a eu des petits empêchements qui fait qu'il a fallu trouver une solution de secours. Néanmoins on a meublé. Donc t'as pas encore écouté le Ciné-Cure?
Non pas encore.
D'accord. On va pas trop s'éterniser sur l'intro tout simplement
parce que tu m'en parles souvent. Rassure-moi, il y a des blagues dessus par rapport à nous, non? Ah bon, d'accord. C'est pour ça qu'il faut que je le dise.
C'est vrai qu'on n'a pas été présent pendant 3 semaines et en plus pour la 200e, on n'a pas fait de chronique de BD récente. Donc là, cette semaine, c'est l'avalanche. Ça va être l'avalanche. Bon, je crois tout le mois de juillet parce qu'on a vraiment beaucoup de retard. Donc là-dessus, on va pas trop, insister. Ce serait un petit peu dommage. Juste une chose, point de vue actualité. Ça y est, Christine Albanel, ministre de la Culture, de la Communication et du Divertissement, a été démissionnée. Non, enfin, a été remaniée, comme on dit pudiquement, pour pas dire qu'elle a été virée. Toujours à propos de la loi Hadopi, qui a été préparée, je vais dire, à l'arrache. Alors, il y a eu pour vous faire un résumé de ce qui s'est passé, puisque les grands médias, eux, n'en parlent pas beaucoup. Mais donc, pour vous faire un résumé de ce qui s'est passé cette semaine, et c'est très important. D'abord, il y a eu un remaniement ministériel. Il y a Frédéric Mitterrand, le neveu, à droite du président de gauche, qui est devenu ministre de la Culture, mais c'est plus lui qui est en charge du dossier.
Ah,
figurez-vous que c'est notre bien-aimé ministre de l'Intérieur, ex-ministre de la Défense.
Non. Hortefeux?
Non, Hortefeux est pas à l'intérieur.
Si, il est à l'intérieur, Hortefeux.
Il est à l'intérieur. Alors c'est merde. Ah, la ministre
Alliomarie.
Alliomarie, voilà.
Et ben maintenant elle est à la justice.
Eh ben c'est elle qui est en charge. Alors tenez-vous bien parce que donc il y a eu un décret d'application qui a été passé. Il y aura un autre décret d'application pour la mise en place, ce qu'on appelle Hadopi 2. Et on parle déjà d'une loi Hadopi 2, sauf qu'en fait il faut parler de 3 puisque ça criminalise. Alors c'est une loi qui tient en 6 articles, qui devrait passer d'ici 2 semaines au Parlement. Et c'est là où on peut prendre peur, puisque maintenant on sera considéré comme illégal le fait de seulement voir ou écouter une œuvre qui était obtenue de manière illégale.
Oh là là, mais n'importe
donc,
quoi.
Donc par streaming, c'est-à-dire bon déjà la connerie de tout balancer sur le peer-to-peer, ils l'ont éclaté, ok, mais le problème c'est que maintenant ils se mêlent de tout. Donc c'est un gros problème pour les professionnels comme moi. Maintenant c'est aussi un professionnel pour les gens qui savent pas très bien gérer leur réseau wifi et tout ça. Maintenant c'est un problème pour tout le monde. C'est-à-dire que le fait que vous allez sur YouTube et que vous regardez un clip et que le clip a été téléchargé de manière illégale.
Ouais, t'es en faute.
T'es en faute. Et la faute en question, c'est 1 500 €, la suspension d'abonnement pendant 6 mois, et en cas de récidive, prison avec sursis.
Ouais, super.
Voilà, donc ça devient vraiment problématique, c'est-à-dire que notre bien-aimé président, qui n'est absolument pas à coquiner ou marier avec une quelconque portion du divertissement et de l'artistique, dans sa vie privée, en a fait une obsession à un niveau qui est absolument délirant. Ça risque de se terminer, à mon avis, devant la Cour de justice européenne. Ça va être bien ridicule pour lui. En attendant, c'est une insécurité juridique monstrueuse. Si on arrive à faire passer ça sur au nom de l'artistique. Je me demande ce que l'on va passer au nom de la pédophilie. Ça veut dire que tous ceux qui auront écouté des albums de Michael Jackson, pardon, on va pas revenir là-dessus. Voilà. Enfin bref, je vous laisse imaginer le délire, quoi. C'est absolument improbable et délirant. Et moi, je me demande ce que l'on va. Néanmoins, Frédéric Mitterrand.
T'as pas un doute de nationalité, des grands-parents
Non, je ne sais pas, mais bon, c'est du délire absolu. Enfin, c'est le fait même de cette insécurité juridique qui, à mon sens, est à combattre parce qu'elle est extrêmement dangereuse pour les libertés individuelles. Donc, c'est vraiment pénible. Pour en revenir à Frédéric Mitterrand, alors lui, il s'est pas exprimé là-dessus. À mon avis, c'est pour ça que c'est Alliot-Marie qui héritait du dossier. Il était muet là-dessus, il veut pas en parler. Je crois que lui, il a compris le piège. Et c'est quelqu'un qui est dans l'estime dans le milieu de la bande dessinée, puisque Nicolas Anspach, rédacteur en chef de notre
partenaire
Actua BD, a ressorti une sortie qu'avait fait Frédéric Mitterrand juste avant d'être nommé à la tête de la Villa Médicis, le poste qu'il a abandonné pour devenir ministre de la Culture. C'était une autorité consultative sur le devenir du service public de la télévision. Il avait bien compris au bout d'un moment que c'était rien, que c'était creux comme autorité. Et donc il a envoyé une carte postale à Nicolas Sarkozy qu'il avait nommé à ce poste en lui disant « Je ne suis pas Laurent Templan du service public ». J'ai trouvé que c'était mignon. D'abord, c'est quelqu'un qui a de l'humour. C'est quelqu'un qui est extrêmement cultivé, qui a peut-être une voix chiante. Mais je veux dire qu'au moins, avec lui, ça risque d'être plutôt intéressant.
Ah ben,
Il est cinéaste, il est biographe.
Oui, il faut se repasser les grands moments du zapping quand il avait dit à Catherine Tasca le fantasme serait de vous prendre là sous les caméras et ce fantasme ne me va pas. Bon, ben, ce serait la même chose, mais par derrière. Donc là, je pense que ce sont des extraits qui pourraient repasser, c'est assez rigolo.
Ou encore la fois où il a mis son 7 d'or, la récompense, oui.
Au niveau du service public,
la télévision,
par terre.
Voilà. Au niveau du service public, par terre. Alors, c'est marrant parce que cette année est en train de partir l'avant-dernier animateur-producteur qui, à l'époque, était fustigé.
De la rue.
Il reste plus que
le
Nike.
Pauvre. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant?
Il reste plus. Je sais pas. Je pense qu'il va boire et prendre des avions.
Il va prendre des avions.
et le dernier qui reste, c'est Nagui. Mais Nagui, on peut pas trop s'attaquer à lui parce que
c'est rigolo.
C'est surtout lui il mettait l'argent dans les productions. L'argent qu'il touchait, il mettait vraiment dans les productions et ça se voyait. Et c'est vrai que Taratata est quand même à un certain niveau. Les émissions de jeux qu'il présente. Il arrive à les faire tenir et je veux dire, c'est pas aussi pauvre. Enfin, c'est mieux que l'autre cocaïné, la suite TF1, là, qui... enfin bon.
Qui est ses bagues
Non, de Chavannes.
Hein
L'excité, je veux dire.
Tu le petit pépère.
Dans les sorties de bande dessinée en catastrophe, alors je vais commencer par les sorties presse. On n'aura pas eu le temps d'en parler. Putain, déjà midi 8. C'est le psychopathe du mois de juin, parce que j'ai reçu ce matin celui du mois de juillet, donc qui est sur la justice. Donc on va aller très vite. On y retrouve tous les graphistes, tous les dessinateurs, excusez-moi, Lancan, Barre, Pixel Vengeur, Carali, sur ce thème-là. Jack Reynal. Il y a aussi d'ailleurs un gros délire sur les super-héros là-dessus, qui passe un peu inaperçu en plein milieu. Encore une fois, ils sont très bons sur le dossier de presse. C'est pas mal du tout. C'est trash. Ça y va sec. Et ça vaut vraiment le coup. Et si on en parle nous, c'est parce que sur France Inter maintenant, ils n'oseront plus en parler ni même dans la revue de presse. Voilà! Oui, parce que c'est Philippe Val, hein. Attention. Hein. On ne parle pas suffisamment de Charlie Hebdo, il y a, on s'en fout. Enfin, nous à Radio FM, on s'en fout pas puisque France Inter est la radio qui est la plus écoutée par les animateurs de Radio FM. Enfin, ça, c'était un sondage qu'on avait fait il y a 5 ans. Comme quoi, oui, on se cultive. On n'est pas que des couillons. Pour aller vite dans les sorties, Osamu Tezuka, à la suite de la réédition en 6 tomes chez Kana. de Astro Boy.
D'ailleurs, Manu, si tu nous écoutes, ce serait bien que tu rendes le tome 1 parce que moi j'ai toujours pas lu cette réédition. Ce serait cool, merci.
Ouais, en format 5 avec des pages couleurs. Alors attention, c'est les versions qui ont été refaites pour l'intégrale de Tezuka qui est sortie au Japon à partir des années 70. Donc c'est pas le dessin des années 50. Enfin, les histoires originelles des années 50, ils ont légèrement remanié l'histoire. Ils expliquent pourquoi, justement, dans ce bouquin. C'est les notes d'intention de Tezuka là-dessus et celle du traducteur, donc c'est pas inintéressant.
Je vais lancer un troll. Ah cool, comme ça c'est bien dessiné alors.
Oui, comme Hergé. on reviendra sur Linklater tout à l'heure. Le sablier tome 9 de Hinako Ashihara est sorti dans la collection Shoujo chez Kana, donc c'est le tome 9. Je vais pas revenir là-dessus tout simplement parce qu'on n'a pas le temps et qu'il faut enchaîner. En ce moment, ce week-end à Paris a lieu la Ankama Convention
4.
On aurait bien aimé y être. Il y a plein d'infos, plein de nouveautés qui sortent. Il y a notamment le nouveau Maliki et là on aurait fait la queue. On aurait pleuré auprès de l'attaché de presse. Obtiens-nous une interview auprès de. Non, mais attendez, les gars, c'est la cinquième.
Ouais, on est blasé, on l'a déjà faite.
Et on salue d'ailleurs Souillon.
Avec des goodies sympas, parce qu'il y a la peluche Fëanor qui débarque. D'ailleurs, sur son compte Facebook, il y a la page Maliki qui dit au moins vous pourrez plus me taxer d'offrir que des t-shirts.
C'est un sketch quand même qui c'était un sketch il y a 18 mois. Il y avait eu des tentatives de peluches, mais et quand elles sont revenues, elles étaient flippantes. Ouais. C'était assez rigolo. Et il nous a montré une photo, d'ailleurs, pour vraiment dire « Oui, regardez, ça fait vraiment peur. » Et bon, là-dessus, il y a d'autres choses. Il y a notamment la fin de la série Nerds, toute équipe de No Life. Il y a la présentation de l'équipe IG, il y a des conférences. La semaine prochaine, il y a
Japan Expo,
10e édition, pas mal de monde qui vient. Clamp,
10e impact, on dit.
10e impact. Clamp, première fois qu'elle vient en Europe. Les grandes dessinatrices, ça fait 20 ans qu'elles sont en activité, hein. Elles ont fait Tokyo Babylon, X,
Tsubasa Reservoir Chronicles, XXOLIC, Card Captor Sakura.
Enfin, la production est monstrueuse.
Alors, juste pour rassurer ceux qui ne pourront pas se rendre à Paris, l'année dernière, il y avait le dessinateur de Goldorak, il y avait le dessinateur Koike de Baby Cart. C'est pas pour autant qu'on les a vus. Il y avait le dessinateur de Death Note. On l'a pas vu non plus. Donc
non, mais là, ils voulaient pas.
Oui. Donc c'est pas pour dire que si vous vous rendez là-bas, vous allez les voir. Hein. Il y a des grandes chances que vous les voyez pas non plus. Donc ne soyez pas tristes si vous pouvez pas vous rendre à Paris. Voilà. Nous, on était, on les a pas vus, hein, les auteurs.
Voilà. Par contre, si vous montez à Paris, une chose que je vous conseille, c'est le guide de Paris en bande dessinée. J'en ai parlé rapidement dans l'émission de la semaine dernière en attendant le supplément week-end. Je devais en parler cette semaine, j'ai complètement oublié. Et forcément,
mais non, faut
si
pas
je
dire
le
ça, il faut dire que nous avons souhaité privilégier d'autres bandes dessinées.
Oui, à savoir qu'on en a une douzaine et qu'il est midi 12, donc on va enchaîner de suite. Alors justement, parce qu'on parlait tout à l'heure de Japan Expo, c'est pas un hasard puisque il sera remis le prix Asie ACBD. Il reste 5 bouquins dans la sélection finale et le premier bouquin dont on va chroniquer aujourd'hui est co-scénarisé par Autier et scénarisé et dessiné par Lee Kun-mu, et c'est pas un hasard parce que tout simplement c'est une autobiographie, une vie chinoise, c'est un triptyque. Le premier tome s'appelle Le Temps du Père, c'est dans la collection Made in Chicana. Oui, je suppose que du sport hier à regarder la chaîne Sena 23h avec l'interview de Lee Kun-mu. Moi aussi je suis tombé dessus et voilà, bon, alors je vais commencer pendant que du sport feuillette.
Pour l'interview aussi bien que ça ou quoi?
Hein?
L'interview aussi bien que ça?
Non, mais c'est à dire que c'est plutôt le quand j'ai vu toutes les gueules de Mao qu'il y avait et tout, quoi, ça m'a. ça a voilà, c'est tous les maoïstes. Nostalgie, tu vois, d'une certaine époque.
D'accord. On est bien dans une radio de gauchistes.
Alors que c'est vrai que vous, les plus jeunes et tout, vous n'avez pas le même sens des valeurs.
Non,
et
ben, la gauche, c'est, ça commence à Mitterrand, nous, hein, désolé.
Et mais justement, c'est pas inintéressant de ce côté-là, parce qu'on voit justement ce qu'était le maoïsme, mais en Chine, qui est très différent du maoïsme européen. Primo, parce que c'était une religion d'État, mais littéralement. Li Kunwu est né à la fin des années 40, d'un père commissaire au peuple et d'une mère paysanne, c'est-à-dire que son père faisait le tour de tous les villages paysans et leur disait, il faut faire une communauté populaire,
oui, mais c'était
un peu les kolkhoz, quoi.
C'était au début, hein.
C'était
au tout début, quoi, fin des années 40. Ça commence en 46-47. La révolution est achevée en 48. Hop.
Et c'est là-dessus donc que cela commence, en fait, sur la rencontre de son père et de sa mère. Faut dire que c'est une génération qui est très importante. Elle est née juste après la Seconde Guerre mondiale. En France, on a eu le baby boom qui a eu une importante. C'est une régénération, donc elle a eu vraiment une importance et elle a amené à une certaine explosion, je veux dire, à une immense évolution de la culture occidentale. Là, c'est l'émergence de la grande Chine communiste qui a lieu à la même époque, menée par Mao Zedong. Celle qui a été les forces vives du grand bond en avant, de la révolution culturelle. C'est une jeunesse qui a été rythmée par grands moments d'exaltation entretenus par un culte quasi divin du président Mao. Et on a les noms des on a les traductions des chansons qui sont chantées, la traduction de toutes les phrases, des slogans qui sont menés, et même les traductions des discours de Mao Zedong dedans, du discours annuel qu'il faisait et qui vraiment donner l'impulsion à toute une nation. C'est une jeunesse qui a été amenée, mais en même temps on y retrouve une certaine honte du jeune Li Kunwu, celle quand il découvre que les parents de son père, commissaire au peuple, étaient des propriétaires terriens et que donc il fait partie de la race maudite des exploitants du peuple qui ne sont que des inférieurs par rapport aux paysans et aux ouvriers. Toutes les catastrophes humaines qu'a connues la Chine entre 1950 et 1975, on a finalement assez peu de reportages ou de films qui le racontent de l'intérieur. On a quelques romans, mais c'est quand même relativement peu, alors que ça représentait plusieurs centaines de millions d'hommes et de femmes qui en ont été acteurs. C'est pour ça que ce témoignage est très intéressant. Car on vit l'exaltation de l'auteur à faire alimenter les hauts fourneaux populaires en métaux et en charbon, histoire de produire plus d'acier que l'Angleterre et les États-Unis, les impérialistes réunis. Ce qui finalement donnera un acier très mauvais qualité et totalement inexploitable. À exterminer les animaux nuisibles pour prouver que l'on est un très bon citoyen, sans se préoccuper des conséquences environnementales, et ce sera une catastrophe écologique monstrueuse. À combattre les contre-révolutionnaires, tabassant profs aînés et détruisant tout ce qui représentait l'ancienne culture de la Chine. Donc ils séquestrent les profs, ils les tabassent, etc. Alors qu'ils sont jeunes, il est encore au collège quand ça se passe. Et ben non, il les maltraite, il est vraiment, alors qu'il aimait vraiment sa maîtresse. 3 mois après, et il va l'humilier de manière continue, et c'est là-dessus que va commencer la déchéance de son père, justement parce que c'est à ce moment-là qu'il va découvrir qu'il fait partie d'une certaine de cet ancien régime qui l'unit tant par filiation. C'est vraiment sans se remettre en question, quelles que soient les conséquences, et avec une énergie débordante et enthousiaste. C'est cette énergie-là, le moteur de la Chine, qui emplit le lecteur quand on feuillette ce bouquin. Et là-dessus, on comprend mieux, à la lecture, pourquoi le gouvernement actuel de la Chine populaire, dont les cadres sont de la même génération que Li Kunwu, ne peuvent complètement remettre en question cette période, mais font tout pour l'oublier. C'est-à-dire que la doctrine officielle, Mao, c'est 70% de bon, 30% d'oubliable. Li Kunwu était un artiste officiel du Parti communiste chinois. Il est membre d'ailleurs d'une sorte de chambre de commerce dessinateur de bande dessinée. Hein. C'est un personnage qui est important, qui est bien établi. Dans l'interview hier dans la chaîne Sénat, pratiquement tout le monde est membre du Parti communiste. Hein. De toute façon, quand on est fonctionnaire, on est membre du Parti communiste. Ça, c'est peut-être ce qu'a oublié.
Ah oui.
C'est ce qu'a complètement oublié mon confrère de ce côté-là. C'est un peu dommage pour une chaîne politique, il ne s'est pas renseigné.
Il planait un peu là, sur ce coup-là.
Non, mais il plane complètement sur ses interviews, donc là-dessus, il a complètement survolé.
Oui, mais là, il était bien décalé quand même.
Et c'est vraiment dommage. C'est un témoignage qui est très important, parce que Lincoln Lewis s'est appliqué à reproduire le style graphique des bandes dessinées de propagande de l'époque. Et Autier est un ami occidental du dessinateur, qui vit depuis une dizaine d'années en Chine, l'a aidé par des dialogues, à restructurer sa propre histoire, à en structurer le scénario, à en faire une bande dessinée plus européenne, parce qu'il a montré justement ce que donnaient les bandes dessinées de l'époque, c'est-à-dire tu as une bande de dessin, une bande de texte. Un peu, je vais dire, comme faisait Rabier hein, au début du 20e siècle. Sauf que là, ben justement, c'est avec des bulles
oui,
et tout le reste.
Oui, mais même les bandes dessinées originelles qu'on connaît, hein, c'est-à-dire les Katzenjammer Kid, même les premiers Pieds Nickelés, était fait de la même manière.
Oui, puisque la bulle,
les phylactères n'étaient pas encore.
Les phylactères ont vraiment été popularisés dans les années 20, années 30.
Fin des années 20.
Tout ça pour dire que graphiquement, il faut arriver à entrer dans ce style qui est à la fois naïf, dense et exalté. C'est un style quand même de propagande, faut pas oublier, et assez populaire, qui est destiné à une population illettrée. Faut pas oublier que l'écriture chinoise est très difficile à maîtriser, qui a plus de 4000 signes. Ça a été réduit. Il y a une écriture moderne entre guillemets.
Et difficile à maîtriser, même pour les Chinois.
Même pour les Chinois, alors que à l'époque, on s'adressait à des paysans qui étaient profondément illettrés. Donc tout passe par le dessin. Mais c'est un dessin qui est assez chargé hein, par moment et qui est bourré de références. Heureusement, elles sont expliquées. Après, c'est au lecteur vraiment à aller chercher toutes ces clés là. Il faut arriver à passer cette barrière qui est volontaire pour découvrir toute la richesse de ce témoignage. Celui de la jeunesse d'une Chine qui est désormais dépassée par la course au profit de la génération suivante, celle qui est au pouvoir dans les entreprises actuellement, puisque c'est encore la précédente qui est au pouvoir politique, mais aussi un oubli savamment dosé par le Parti communiste. Aussi qu'on ne peut se permettre de juger les acteurs de cette époque si on ne remet pas dans le contexte. C'est un livre indispensable qui donne des clés très utiles pour mieux comprendre la Chine d'aujourd'hui. Celle qui fait table rase d'une civilisation multimillénaire et qui n'est finalement condamnée qu'à aller de l'avant, peu importe la direction. Une vie chinoise, ce bouquin est parmi les 5 livres qui sont en compétition pour le prix Asie ACBD 2009. Nota bene, je vote pour ce prix, dont le résultat sera annoncé lors de Japan Expo, normalement samedi prochain. Le premier tome sur toi s'appelle Le Temps du Père, c'est dans la collection Made in chez Kana. Autier au scénario, Linkou au dessin. Je sais pas si du sport a quelque chose à rajouter là-dessus.
Non, c'est bon. Hein.
Moi, un avis perso, c'est que...
J'attends de lire.
Ce que tu dis, c'est vachement intéressant, ça donne envie de lire la BD. Après, c'est vrai que quand tu feuillettes la BD, comme tu l'as dit, le dessin est super chargé, c'est fait au pinceau, donc il y a beaucoup d'irrégularités, mais c'est ça qui fait la force du dessin.
Ça a vraiment une vivacité, voilà. Et en même temps, il y a de la décalque, des trucs comme ça. Mais
après,
voulu.
Oui, tout à fait, oui. Mais après, c'est vrai que c'est pas vraiment un dessin qui donne envie au premier coup d'œil. En fait, faut être motivé, quoi, pour ouvrir la BD. Après, je suis sûr que c'est la BD, j'ai l'impression que tu passes beaucoup de temps à lire déjà. Et puis le fait que ce soit un premier tome, c'est combien il est prévu de tomes?
3. Honnêtement, c'est vrai que là, les 4 semaines entre guillemets de vacances m'ont vraiment été utiles. Mais je vais dire, si vous voulez l'offrir à des amis maoïstes comme Kinou, voire maoïstes dépassés comme Frézière, non, il n'aura jamais le temps de le lire. C'est intéressant. Et justement, quand on met en perspective avec le bouquin d'Arnaud Bureau sur mai 68, sur pourquoi les maoïstes ont été dépassés en France pendant mai 68, c'est intéressant. C'est passionnant, parce que c'est là où on se voit qu'ils n'ont rien compris, ils ne comprenaient pas ce qui se passait, ces intellectuels qui gambergeaient, etc. Alors qu'eux, ils ont dit « on supprime l'intellectuel ». C'était aller dans un délire qui est complète, qui est incroyable. Je veux dire, les discours annuels de Mao Zedong quand il est malade, et qu'il finit par « il est temps pour moi de péter », t'as toute une population de pratiquement un milliard de gens qui se disent comment il faut interpréter ça. Vous savez, on a l'impression d'avoir une réunion mensuelle de radio éphémère avec Philippe Fraisse, pardon. Mais je veux dire, c'est troublant. C'est vraiment troublant et c'est un bon bouquin, quoi, vraiment.
Bah, c'est bien d'avoir un bouquin qui soit des pavés comme ça à offrir avant les vacances.
Laurent Manoukian, ceci ne fait pas vote. Hein.
Sinon, c'est quoi les autres, les quatre autres bouquins pour
Je les ai pas notés, honnêtement, parce qu'on est hyper à la bourre. Il est midi 24 et on a encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 BD à chroniquer. Oui. Et on va enchaîner avec Commando Colonial. C'est sur un scénario d'Apollo et un dessin de Bruno. Le tome 2 s'appelle Le Loup Gris de la Désolation et est sorti dans la collection Poisson Pilote chez Dargo. On y retrouve Antoine et Maurice qui avaient été envoyés à Madagascar en mission secrète pour Londres dans le cadre de l'opération Ironclad. Ceci afin d'évaluer si le général de Gaulle y est suffisamment populaire pour reprendre la main sur cette colonie. Dont l'autorité, comme la plupart des colonies au début de la Seconde Guerre mondiale, est plutôt pétainiste. Les Masquis ont dû fuir l'île en avion avec Zborowski en direction du Mozambique. Ils vont échouer à mi-chemin du continent africain sur une petite île, l'île d'Europa, tenue par un original, Dos Santos. Un petit bout de terre en pleine mer, un petit coin de paradis, alors que le monde est en train de s'entre-déchirer dans cette Seconde Guerre mondiale. Oui, mais voilà, des éléments très importants récoltés lors de l'opération Ironclad doivent impérativement revenir à Londres auprès du gouvernement de la France libre. Il faut donc soit arriver à réparer l'avion, soit improviser une barque de fortune pour traverser un bout d'océan. 400 km, une paille quoi. Antoine, Maurice et Zborowski n'ont pas franchement l'envie d'abuser de l'hospitalité de Dos Santos. Bon, parce qu'après tout, il fait payer les nuits. Parce qu'on s'y est ennuyé et que toutes ces interdictions idiotes du propriétaire des lieux a tendance à énerver ces hommes d'action au repos forcé. Retrouver une série du tandem Bruno et Apollo est un bonheur. Chaque série dessinée par Bruno est dans un univers différent, mais il arrive à y rendre son style tout à fait crédible et même parfaitement justifié. Biotope, Inner City Blues, Junk, Apollo se fait visiblement plaisir à raconter ces colons qui se prennent pour des petits rois déstabilisés par la Seconde Guerre mondiale, dont ils ne savent comment tirer profit ou même garder leur statut. Une phrase de l'album est reprise en quatrième de couverture. Nous vivons la fin des temps héroïques, il faut en profiter. Ces héros ne sont pas des barbouzes, mais plutôt des aventuriers, et les auteurs donnent une personnalité tangible à chaque acteur de la série. Ça reste un coup de cœur, c'est fabuleux, et la reprise de l'affiche de propagande en quatrième couverture est un bonheur. U-Bot, il y a des...
Et on le fait dire à du sport.
Ouais, U-Bot et Rouse.
Voilà, ça vous donne une idée de ce qui se passe dans le bouquin. C'est un bonheur. Apollo et Bruno, Commando Colonial, deuxième tome, ça s'appelle Le Gris de la Désolation. C'est dans la collection Poisson Pilote chez Dargo. On regrette de ne pas avoir eu en interview Bruno. Ça n'a pas pu se faire. En tout cas, tous les bouquins qu'on a eu jusque-là, ben, c'était du bonheur en barre.
Ah oui, non, moi je suis méga fan de Bruno aussi. Non, il n'y a pas de souci. Même Michel Swing, où c'était vraiment le début.
C'était de la pantalonnade, quoi.
Oui, oui, non, mais c'est rigolo, ouais. Enfin rigolo, le style donne l'impression que c'est rigolo, mais quand tu vois les histoires, c'est pas rigolo du tout.
Marniquet et Philippe Chanoine au scénario, Philippe Capel au dessin, les aventures de Jake Bishop. Le tome 1 s'appelle Le Temple de l'Épouvante et c'est sorti chez De Singe et Hugo et compagnie, qui sont en fait des anciens de chez Albin Michel, dont la branche BD a été revendue. Alors ça se passe à la fin des années 1940, le monde sort des hostilités mondiales, mais certains y ont goûté à l'aventure, espérant toujours continuer à goûter à son sel. Jack Bishop a été viré de la marine américaine et depuis fait du transport de fret aux quatre coins du monde avec son équipe de baroudeurs. Un de ses amis hongkongais est tué suite à une agression. Jack va trouver l'objet de la mortelle convoitise, un médaillon qui ouvrirait la voie vers un temple caché au cœur de la jungle cambodgienne. autant Bruno un style qui lui est propre, qui est d'ailleurs inimitable, autant Chappelle copie un style, la ligne claire, et il le dit ouvertement. Mais en perdant sa personnalité. En fait, en n'y amenant aucune personnalité. Tout comme l'histoire, le film est bourré de stéréotypes et manque de maîtrise. C'est pour ça que le héros ressemble à John Wayne dans le film Le Renard des Océans, The Sea Chase. Le début de la classe américaine, hein, pour ceux qui l'ont vu. Malheureusement, l'hommage est loupé et ressemble plus à une mauvaise caricature. Même le scénario a du mal à être comparé à un Ricochet, un Black et Mortimer, un Lefranc ou même un Catras. Toute l'histoire est contenue et convenue, cousue de fil blanc. Alors quand le dossier de presse tente de comparer l'œuvre à Jean-Michel Charlier, je soupire. Oui, les jeunes sont intrépides, les matelots sont bagarreurs, les chinois à moustache sont fourbes. Oui, je suis chinois, je tripote ma moustache et je suis fourbe.
Les salauds.
Et les tentacules ont des griffes. Marniquet et Chanoana arrivent à transcender leurs personnages stéréotypés en performance artistique, hommage au téléfilm de prestige du lundi soir sur TF1. C'est pas que c'est creux, c'est vide. L'ensemble de l'album est maladroit, aurait gagné à être mieux travaillé. La semaine prochaine, Frédéric Marniquet, Philippe Chanoana au scénario, Philippe Chappelle au dessin, les aventures de Jake Bishop. Le tome 1 s'appelle Le Temple de l'Épouvante, c'est chez Deux Singes et Hugo et compagnie. Retenez bien les références parce que la semaine prochaine, une autre série par les mêmes auteurs et éditeurs.
Ah, mais c'est pour ça que tu n'es pas allé à fond aujourd'hui.
Ouais. Eh ben, attends, je suis désolé. L'attaché de presse m'envoie les bouquins et il s'étonne. Ah, mais vous faites partie d'ActuBD, vous pouvez me les chroniquer ? Je les chronique.
Et du sport, t'as pas l'intéressé ?
Non, pas trop.
On en est dans la ligne claire dans les années 40. Le groupe vert de Gris vient de passer demain et reste toujours, je veux dire, chaudement dans le cœur de la rédac. Hein.
On disait qu'il paraît qu'il fallait plus qu'on dise qu'on se prêtait les BD maintenant.
Oui, c'est vrai. 12h30 dans le supplément week-end sur Radio FMR et sur le podcast supplémentweekend.fr. Sur le podcast, vous pouvez vous inscrire en supplémentweekend.fr. Tous ceux qui sont inscrits pendant tout le mois de juin. Depuis l'ouverture jusqu'à la fin du mois de juin, il y en a un qui repartira avec une BD. Et on va faire des concours et on peut voter pour les top 5. Alors on avait fait un top 5 des BD qu'on était fiers de vous avoir fait découvrir. Là on a fait un top 5 des films dont vous auriez vraiment du mal à justifier devant le juge de la loi Hadopi comment vous avez pu les voir. Les votes sont toujours ouverts. Oui, il y a du monde et je suis assez surpris des résultats parce qu'il y en a qui disent oui, je suis allé voir ce film. Alors je ne sais pas si c'est de manière légale ou illégale. Je ne sais pas qui, mais je suis assez étonné de certains résultats.
Et donc, pour l'instant, qui est en tête ?
Alors, je suis pas allé voir. Je sais que j'ai été très surpris que le Turkish Star Wars a plutôt été suivi.
Ah, mais le Turkish Star Wars, tu dis ça, il y a plein de gens qui l'ont vu. Hein. Enfin, en tout cas, nos amis à nous, c'est des geeks. Alors,
bon, alors ceci dit, on peut capter les chaînes turques en France. Et elles passent ce genre de film, en général, à l'heure où les cabinets d'avocats dorment. Donc, je comprends à la limite. Hein. Je rappelle que maintenant, donc, voir ce film est strictement illégal puisque le film à la base lui-même est illégal. Donc, c'est un peu inquiétant. Après, je suis assez surpris qu'il y en a qui aient vu l'hommage à l'univers de Games Workshop qui a été interdit.
Warhammer, ouais.
Sur l'univers Warhammer. Il y a d'autres films, bah, après tout, pourquoi pas. Notamment This Film Is Not Yet Rated. Il y en a eu quand même qui l'ont vu.
Précisons,
moi je l'ai vu à l'époque quand il était disponible en streaming aux États-Unis de manière légale sur le site du diffuseur, sur ifilm.com. Donc après je ne sais pas.
Pour les autres films, nous précisons, monsieur le juge, que nous ne les avons pas vus et nous avons fait un top sans les avoir vus.
Non, c'est anonyme, je n'enregistre même pas les votes, j'enregistre juste le fait que vous ayez voté.
Voilà.
C'est tout, supplémentweekend.fr. Vous pouvez continuer à donner vos appréciations et puis après ben, peut-être qu'on va faire gagner des trucs et je vous rassure, c'est pas une assignation ou une coupure d'internet, promis juré. Thomas, toi tu as...
Du dragon.
Grand Dieu, tu fais peur quand tu dis ça.
Oui, mais c'est toi qui as la BD d'ailleurs. Ah ouais. Alors, il s'agit...
Oh, poulet.
Il s'agit de Ragnarok, tome 6, Casus Belli. Donc, par
qui veut dire en latin
Belle cause, juste cause.
Non, un cas de guerre.
Cas de guerre, mais voilà, c'est tout à fait l'album en plus.
Casus Belli en Iran, par exemple, c'est une élection.
D'accord. Alors, c'est édité chez Glénat. Et alors, depuis quelque temps, les créatures magiques, elfes et lutins, sont en effervescence. Leurs pouvoirs sont en ébullition suite à un dérèglement biologique d'origine inconnue. La ville des humains ne ferait pas long feu si les créatures de la forêt se déchaînaient. Alors, le petit dragon Ragnarok et sa fée Najette sont décidés à démêler le pourquoi du comment et empêcher que les dangereuses créatures de l'autre monde ne viennent tout détruire. Alors voilà, c'est le parti pris de l'histoire. C'est-à-dire que la ville des humains, c'est une ville comme chez nous, sauf que il y a des créatures magiques dans la forêt, et puis c'est tout à fait entendu, c'est-à-dire que les humains savent qu'il y a des créatures magiques à côté. Sauf que ce monde des humains, en fait, c'est un monde où les mamans dragons élèvent leurs bébés dragons, parce que ce monde est assez inoffensif, même pour les bébés dragons. Et après, une fois qu'ils sont assez chargés de magie et qu'ils peuvent en découdre et qu'ils peuvent anéantir des villes, ils vont dans l'autre monde, c'est-à-dire le monde magique, où il y a que des dragons adultes qui sont super dangereux. Alors, d'où est partie la saga Ragnarok? C'était un pari stupide de Boulet, sous l'emprise d'alcool, qui martelait à ses amis que l'heroic fantasy était un sous-genre. Et il disait, n'importe quel blaireau peut s'y atteler et faire un truc. Alors les amis lui disent, vas-y, pas cap. Alors il rentre chez lui, toujours bourré, et il revient le lendemain avec quelques pages griffonnées, et puis les amis lui disent, c'est ce que t'as fait de mieux.
Alors, là, c'est en merde.
Passé le premier moment de vexation.
Je rappelle quand même qu'au moment où ça se passe, c'est dans les années 90. Delcourt fait surtout de l'heroic fantasy. Et donc, c'était un cliché pour les étudiants qui sortaient soit des Gobelins, soit.
Et lui, il sortait des Arts Déco de Strasbourg.
Là. Voilà, de Strasbourg, d'Angoulême ou de Saint-Luc. De sortir la BD chez Delcourt, c'est un peu la facilité. Alors que tout le monde faisait plutôt de l'autobiographie, comme les éditions Ego Comics et ce genre de trucs, des trucs plutôt autorisants.
Voilà. Donc la saga Ragnarok est sortie. Les quatre premiers tomes sont des gags en une planche où il se sert de ses premiers tomes pour planter les personnages. Il introduit les personnages de la petite barbare de 8 ans Roxane qui veut tout péter, qui a une force surhumaine.
C'est assez rigolo.
Et voilà, Xavier est en train de découvrir la BD. Et le top 5, c'était un plus fugit, c'était un voyage dans le futur assez sombre, où c'était une histoire complète en un tome entier. Et là, donc, le tome 6, c'est également une histoire complète. Et donc là, décidément, l'écologie est à la mode, même si l'album a été fait avant le résultat des élections et de Home. Donc c'est un dérèglement écologique magique qui est, on ne dévoilera pas ici la source effectivement du problème. Alors il y a plein de personnages rigolos, hein. Donc on a Ragnarok, le petit dragon qui est capable de cracher du feu et il peut pas voler. Là, au grand désarroi de sa mère qui essaie de le pousser dans la vie, mais ça marche pas. Elle a tout essayé, le balancer du haut de ravin, tout ça. Il a essayé
plus d'une fois d'ailleurs. Et t'as les ailes trop petites, mais ça poussera en te balançant.
Voilà, dans les premiers tomes, il a réussi à voler, mais il était bourré, donc il s'en souvient pas. En fait, il a compris qu'il fallait balancer les ailes, en fait.
C'est un peu con. Ouais.
Donc il a une fée qui s'appelle Najette, qui a une baguette, la baguette de Barbie rose, qui s'appelle Bamboudou, la baguette des petits filous. Donc quand elle l'invoque, il y a une espèce de grosse frestagada qui arrive et dit « Bonjour les zouzous, tsunami d'amour dans ta face !» Voilà, t'as la barbare, la petite barbare, voilà, t'as la grand-mère dragon aussi qui passe son temps, parce qu'elle est flemmarde, alors elle passe son temps à garder son trésor dans une caverne, elle attend que les aventuriers viennent d'eux-mêmes pour les bouffer. C'est pas mal comme stratégie.
Bah ouais, parce que finalement elle est âgée, tout ça, et elle pèse plusieurs quintaux, alors quand la viande vient toute seule, elle peut s'emmerder.
C'est un dragon avec des lunettes. Alors on retrouve complètement l'humour de Boulet si vous l'avez découvert avec le blog, même si le dessin est plus sage, c'est un album au format BD franco-belge,
48 pages carton et couleur, et surtout qui sort dans une collection Tcho, qui est plutôt justement destinée aux jeunesses, même si c'est une collection qui a été initiée autour de l'œuvre de
Zep,
voilà, ouais. De Titeuf, mais c'est du gros délire, hein, c'est potage, ça y va à fond.
Voilà, et donc la fin de la BD, ça c'est une belle ouverture pour la suite avec la présentation justement du monde magique, et on voit à un moment donné le bout d'une dent du père de Ragnarok. Tu te dis, c'est vraiment du Carpenter à fond avec le miroir, la main qui sort et tout, c'est génial. Bon, Ragnarok il est pas parti pour effectivement grandir et rejoindre le monde magique, donc je pense qu'il va y avoir pas mal de tomes avant qu'il puisse retrouver à nouveau son papa. Mais bon voilà, c'est sympa, c'est au début tu te dis tiens, quand t'es habitué à avoir du dessin super chargé de boulets, super expressif, au début c'est très clean, alors tu dis ouh, et puis après ça va, l'histoire se développe et c'est génial. Voilà, Ragnarok.
Alors juste une chose, Casus Belli, c'est le nom d'une revue mythique pour les joueurs de jeux de rôle, oui. Et ça m'étonnerait que Boulet ne l'ait pas lu. Et aussi, il y a une chose que je trouve, une petite remarque, c'est qu'on sent quand même que Boulet a participé à la saga Donjon, parce que son dessin ressemble énormément à... justement à... au dessin de...
Sfar,
justement. Je trouve ça, ça y ressemble énormément. Enfin, c'est vrai qu'il a, énormément travaillé son dessin, notamment grâce à son blog, qui est une épreuve de rapidité et de qualité. Mais c'est vrai que ça ressemble beaucoup à du Sfar maintenant. Et là-dessus, bon, il garde sa personnalité propre. Hein,
de toute façon, si vous aimez l'univers d'Heroic Fantasy, des gros monstres, Seigneur des Anneaux, manga aussi,
Kamehameha.
Il se débrouille toujours pour foutre des références dans le Donjon Zenith. Il avait foutu des volutes qui faisaient penser au bateau de One Piece, enfin il y a plein de gags cachés de toutes parts. Donc Ragnarok tome 6, Casus Belli par Boulet, c'est édité chez Glénat. On enchaîne maintenant avec une BD plus autorisante, en tout cas dans le genre, hein, Juju Mimi Féfé Chacha, donc ça c'est le titre, par Bastien Vives.
Attends. Pause, shuffle,
play. Juju Mimi Féfé Chacha, par...
C'est des cousins inconnus de Langue Picsou.
Ah oui, c'est pas mal ça.
On dirait des beaux rythmes de gamin, ça. C'est un âge mental d'un joueur du PSG ou d'un...
Filoulou Magazine. Filoulou, ouais. Donc par Bastien Vives et Alexis de Raphaëlis, édité chez Ankama. Et donc on suit les discussions, parce que ça c'est pas très actif, hein, on va dire. Juju, le macho qui sort avec la très effacée Féfé, tandis que de son côté, Chacha est en couple avec le fragile Mimi qui arrête pas de pleurer. Alors on suit les sorties, papotage, les vacances, les activités en tout genre, qui semblent pour eux le moyen de se retrouver séparément entre mecs et entre filles, pour parler de leur couple et de la vie en général, leur séance chez le psy, les films de Meg Ryan, les recettes de drague, etc. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que la BD, si vous commencez à la feuilleter, c'est pas le trait, le graphisme qui vont sauter à la gueule. Hein. On a plutôt l'impression que le dessin a été fait vite fait, hein, un peu en quatrième vitesse. Mais c'est surtout les dialogues, en fait, qui sont super rigolos, assez mordants. Par exemple, le barbu Mimi, il passe son temps à pleurer, il cherche dans sa copine tout ce qui lui rappelle sa mère. Il va chez le psy, il dit au psy « Ah, maintenant ça va beaucoup mieux, je vis beaucoup mieux le divorce de mes parents depuis que j'ai compris que tout était de ma faute. » Après, il va pleurer auprès de son copain, à un moment donné, il lui dit « Ouais, je suis désolé, j'arrive pas à voir le papillon dans le test de Rorschach. » Enfin, voilà. Alors le mec, c'est une lavette par rapport à son copain qui, lui, c'est le macho pur et dur. Il interdit à sa copine de respirer trop fort pendant l'amour pour pas le déconcentrer. À un moment donné, il murmure des trucs que la nana lui dit de savoir ce qu'il dit. Il dit c'est une affaire entre moi et moi, ça te concerne pas. Bon, ok. De son côté, la nana lui reproche un peu d'essuyer ses dernières gouttes de pipi sur les draps. Alors ça, c'est pas top, hein. Et puis elle est obligée d'aller faire du sport dans les salles de sport parce que le Juju lui a dit tes fesses elles sont molles, c'est un peu comme fourrer une plaquette de beurre tiède. Voilà, donc
c'est glamour.
Voilà, c'est des dialogues comme ça, donc des fois c'est à t'arrache à déclat de rire quand même parce que c'est assez rigolo. À force, c'est une BD qui se lit très très vite. Puis c'est vrai que ça a un côté un petit peu agaçant de BD, un peu branché, parisiano branchouille, un peu bobo. Alors les nanas elles ont des portables Apple, elles parlent des films de Meg Ryan un peu à la Carrie Bradshaw, tu vois. Bon, ça s'appelle pas très haut, c'est une BD à offrir, hein, qui est assez rigolo. Tu vois les dialogues, tu te marres franchement. C'est pas pour le dessin, c'est une BD légère par le gars qui a été récompensé en Angoulême pour le goût du chlore, Bastien Vives. Alors c'est une BD qui est scénarisée à 4 mains et dessinée à 4 mains également, hein, donc chacun ne prend pas en charge le scénario ou l'autre le dessin. Juju Mimi Féfé Chacha, c'est une BD de Bastien Vives et Alexis de Raphaëlis chez Ankama.
Oh bah on va passer à littéralement autre chose. Du sport, est-ce que tu as quelque chose qui fait boum hein?
Ah, Schwam, qui fait boum, certainement, ouais.
Fizz. C'est classieux.
Non, non, c'est une erreur de ma part.
Ah, bah je savais, bah je savais.
C'est que je me suis trompé dans...
C'est pas ce qui avait été prévu.
C'est vrai que... regardant la couverture de ta BD, ça, c'est vrai que ça ne correspond pas trop.
Alors... Allez, 10 secondes, 10 secondes.
Il est sorti, enfin, ouais. enfin. La tuerie de Garth Ennis et Derek Robertson, The Boys, c'est le tome 3. Alors après, The Boys tome 1, la règle du jeu, The Boys tome 2, prends ça. Mais voilà le 3 qui s'appelle le glorieux plan quinquennal. En quatrième de couverture, pour mettre les choses un petit peu au clair et tout, dans un monde où les super-héros sillonnent le ciel ou rôdent la nuit, quelqu'un doit faire en sorte qu'il ne dépasse pas les bornes. Et ça, c'est le boulot de Billy Butcher, du petit Yugi, de la crème, du français et de la fille. Les petits gars de la CIA, une équipe de gens dangereux. Ça tombe bien puisqu'ils luttent contre la force la plus dangereuse sur la Terre, les Gigus à super pouvoir. Certains super-héros doivent être surveillés, d'autres doivent être contrôlés et certains, parfois, doivent dégager. Et c'est là qu'interviennent nos petits gars. Et là, dans le glorieux plan quinquennal, les petits gars partent en Russie. Oh. Où un complot très tortueux est mené en vue d'un coup d'état pour renverser le gouvernement actuel de Russie. En fait, ils vont se rendre en Russie parce que une nana qui est un petit peu l'équivalent de qui est la chef de la mafia locale, de la mafia russe moscovite, décide d'embaucher plein de super-héros. Et de les faire exploser de temps en temps, quoi. Alors on se demande pourquoi au départ, quoi. À Moscou, on se retrouve avec 2, 3, 4 cadavres de super-héros qui commencent à faire les cons. Et puis, tout d'un seul coup, leur corps explose, leur tête explose. On se demande pourquoi. Okay.
C'est Garth Ennis au scénar.
C'est bien vu parce que cette nana, c'est juste comme ça. Quelques petites mèches qui sont lancées au départ et cette nana, Miss Namenko, a embauché pas moins d'une 150 à 200 super-héros ou super-vilains et les a tous équipés d'une petite puce qui doit exploser justement. Et en fait, elle veut s'en servir justement quoi, pour montrer qu'au moment donné, elle qui va avoir la télécommande va pouvoir exploser tous les super-héros. Donc va pouvoir dire, ok, regardez, moi je peux faire régner l'ordre alors que c'est méchant Superman et autres Super Gugus, ils foutent le bordel un petit peu partout, ils foutent le why. Et bien sûr, l'équipe de The Boys va intervenir et c'est pas triste. Alors c'est toujours aussi très trash, c'est toujours aussi très violent. Ça va dans tous les sens et tout. C'est magnifique, c'est impeccable et surtout avec un petit Yugi qui a les traits de Simon Pegg, on le rappelle, qui commence vraiment à se poser beaucoup de questions. Enfin bon, lui c'est un petit peu le candide de l'équipe, c'est-à-dire qu'il est pas encore rentré tout à fait dans le plan, il est pas là vraiment pour dégommer, il a encore des états d'âme.
Il
a beaucoup d'état d'âme encore. Les autres non plus, du tout. Et on va faire la connaissance également d'un autre ex-copain de Billy Butcher, qui est le patron de l'équipe, qui est un pendant soviétique, on va dire, des super-héros, mais qui est resté attaché à la glorieuse notion du communisme et qui est très très nostalgique du temps passé. Mais ça, c'est une autre histoire. Je vous convie absolument à acheter ce The Boys. Si vous n'avez pas encore acheté les deux autres, on peut à la limite prendre le tome 3 sans avoir lu les deux autres et tout, mais quel plaisir de pouvoir se faire les trois tomes si vous n'avez pas lu ces trois tomes. C'est The Boys par Garth Ennis et Derek Robertson, c'est sorti chez Panini Comics et bien entendu c'est vraiment pour lecteurs avertis là, il n'y a pas de problème, ça je vous l'assure. Alors, il y a trois semaines, je vous avais présenté dans la nouvelle série cartonnée disponible en librairie Spider-Man et les héros Marvel, avec le numéro 1 qui était donc Spider-Man et Wolverine. Le concept est toujours le même. Et là, bien, trois nouveaux tomes sont déjà sortis en librairie, avec tout d'abord La Justice selon Daredevil. Alors, là, c'est pas mal. Disons que des quatre qui sont sortis pour moi, c'est nettement le plus intéressant. Tout d'abord parce qu'il s'agit d'une histoire quasi complète en quatre parties, hein, qui était sortie en quatre parties à l'époque de janvier à avril 2001. Sous le titre original Unusual Suspect. Déjà, bon, bah, ça se
dit, ouais, c'est pas mal.
On se dit que ça peut le faire pas mal, quoi. Et bon, bah, ça a été traduit de la même façon en français, hein, Unusual Suspect, quoi. Ils ont même pas traduit, en fait, quoi. Ok. Scénario de Paul Jenkins et surtout le dessin de Phil Winstead. Alors, moi, je connaissais pas du tout ce mec-là. Et je suis vraiment tombé sous le charme, quoi. Vraiment, c'est impeccable, c'est nickel, c'est pas très moderne. Bon, c'est dessiné à la main, bien entendu, hein. C'est pas encore les nouvelles techniques de palette graphique et tout ça sur ordinateur, c'est dessiné à la main, mais c'est un résultat tout à fait magnifique et tout. C'est old school, on va dire. Mais ça dépote quand même, quoi. C'est vachement bien rendu. Les impressions de mouvement et tout, quoi, sont vachement bien rendues. Et surtout, l'histoire, le scénario de Paul Jenkins tient également la route, car Daredevil et Spider-Man associés. Faut dire que Daredevil et Spider-Man, dans la saga de Spider-Man et de Daredevil, quoi, sont des potes. Hein. Ils se connaissent depuis très longtemps. Ils sillonnent les rues et les toits de la même ville depuis pas mal de temps. Ils ont eu l'occasion de s'aider. Et d'ailleurs, actuellement, dans la série Spider-Man qui sort dans le périodique, dans le mensuel Spider-Man, eh bien c'est pareil, l'aventure concerne Spider-Man et Daredevil. Là c'est sorti en 2001, mais bon, ça vaut vraiment quand même le coup. C'est magnifique, hein, c'est impeccable, parce que bien Spider-Man et Daredevil vont être confrontés bien à quelque chose d'un petit peu surnaturel, quelqu'un qui va plus ou moins se prendre ni plus ni moins pour le fils de Satan, le fils de Dieu. Et donc on va virer l'histoire va virer un petit peu dans le fantastique, tu vois, et ce qui est assez rare pour le souligner. Donc c'est absolument
bon,
excellent.
C'était pas du fantastique avec les super-héros.
Non, mais bon, là fantastique, tu vois, un petit peu
mystique,
quoi. OK, mais vraiment bien, quoi. Là de toute façon, de la collection pour l'instant sortie, c'est quand même le meilleur. Il y a toujours un fascicule qui est fourni avec donc le truc cartonné, et la bonne idée, ça a été justement dans ces de faire autre chose que de rajouter une histoire un petit peu spéciale, un one shot mais plus ou moins rigolo, pour diversifier un petit peu l'offre. Là, eh bien, il s'agit d'une des créations originales, scénarisée également par Paul Jenkins, mais dessinée, alors là il faut dire dessinée, peint par Paolo Rivera. Et en fait, le concept est simple, les histoires, eh bien, ce sont les origines qu'on connaît tous, hein, c'est-à-dire l'origine là de Daredevil, l'origine après de Hulk, l'origine de Spider-Man dans le premier, hein, ouais, c'est-à-dire okay. Ce qu'on connaît, hein, vraiment ce qu'on connaît, hein. Bon, il se fait piquer par l'araignée, tout, tac, tac, enfin vraiment, quand il exploite ses super pouvoirs mais à mauvais escient, son oncle Ben se fait tuer par des cambrioles, enfin l'histoire traditionnelle. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est le traitement, parce que c'est de la peinture. Ce sont des tableaux. Chaque case est un tableau, en fait. Et donc, raconte l'histoire de Spider-Man, l'origine de Spider-Man.
Putain,
de Peter Parker.
C'est impressionnant.
Paolo Rivera, au dessin.
C'est sorti,
à la
c'est sorti dans la série principale
C'est en plus. C'est un peu fascicule
non,
en plus,
non,
en
non,
fait.
Non, c'est le fascicule qui est filé avec. Alors, dans le Spider-Man, donc. Daredevil, quoi, c'est l'origine de Spider-Man.
Ah oui, non, mais parce que s'il a sorti en série principale, s'il faut qu'il pompe ça tous les mois.
Non, c'est une série originale. Et d'ailleurs, ils ont arrêté, car au numéro 4, eh bien, on a plus déjà le Jenkins Rivera qu'on a dans le 3, hein, avec l'origine de Hulk. Et c'est pareil, hein, c'est Paul Jenkins au scénario, Paul Rivera au dessin, enfin à la peinture, et là c'est pareil, hein, c'est nickel, quoi. Enfin, c'est surtout que ça change, quoi. C'est ça qui est très intéressant, quoi. C'est que bon, bah, ok, on n'a pas l'habitude de ce genre de graphisme dans les comics. C'est là que c'est vraiment très très bien foutu. Bon, dans le Spider-Man et les héros Marvel numéro 3, c'est la colère de Hulk, en fait, avec là bah, plusieurs histoires. Ce qui est intéressant, en fait, ça va être les différents styles. Les différentes périodes. Le premier, c'est un épisode qui s'appelle This Gentleman Name is Hulk. Le gentleman là, c'est Hulk. Écrit, co-écrit, on va dire, et scénarisé par John Romita Jr., G. Kane et Jerry Conway au scénario. Il y a ensuite, ça date de 73. Ensuite, il y a la période 90 avec un épisode qui s'appelle Acte de vengeance, Shows Gambit. David Michelinie au scénario, Todd McFarlane au dessin. Et là, avec un Hulk qui est gris. Il n'est plus vert, il est gris. Hein, et c'est d'ailleurs une période, là, tu peux regarder, c'est la fameuse période du Hulk gris qui est assez moche, qui est très primaire. Primaire, hein, c'est-à-dire Hulk tapé, Hulk méchant, Hulk pas content, tagala.
C'est et le, par tout contre... début, le tout début était Hulk était en gris.
Oui, aussi. Mais bon, bah là, c'est, on est en 90. Et avec en plus Spider-Man qui a des pouvoirs surnaturels, des super pouvoirs qu'il n'a pas d'habitude. Hein, il a encore plus de pouvoirs que d'habitude. Donc vraiment une période un petit peu spéciale.
Il y a JB qui tape sur un doute. Moi, je me souviens d'une période, effectivement, fin 80. On a eu un Hulk gris, mais intelligent. Mais vraiment plus intelligent que d'habitude.
Là non, là dans cet épisode là, je peux
pas. Là il y a les muscles mais pas le cerveau.
Moi il me semblait que justement le Hulk gris était intelligent et très cool.
Bah non.
Mais... tu sais avoir un doctorat.
Et dans le fascicule là de consacré à Hulk, ça se finit sur un ami de Banner qui lui dit laisse pas la colère foncer ton jugement. Et Banner il répond non Igor, si j'étais en colère tu le saurais.
Ensuite après l'épisode de Todd McFarlane et Michelini qui scénarise également le double épisode avec Doc Sanson, hein, Sanson se déchaîne et Vert de colère, toujours scénarisé donc par Michelini avec Marc Bagley au dessin. Et là c'est pareil, donc c'est une histoire de Spider-Man et de Hulk, là qui sont plutôt côte à côte, ils se tapent pas sur la gueule et tout quoi, mais c'est parce que c'est Doc Sanson qui fout un petit peu le bordel. Et enfin dans le fascicule bien entendu de Paul Jenkins et Paul Rivera, dans le quatrième sorti Spider-Man et les héros Marvel, Femme Fatale. Oh là 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 là.
On a droit
bah aux trois on va dire canons de la mythologie. Hein, surtout les deux premières, Black Cat et Elektra,
oui,
hein, la chatte noire et Elektra, et ensuite Natasha Romanoff. Mais Natasha Romanoff fait partie d'une histoire à part, Spider-Man et la Veuve Noire. Alors l'ensemble du bouquin là est scénarisé par Brian Michael Bendis qui s'est occupé assez longtemps de Spider-Man et dessiné par Marc Bagley. Et là c'est vachement intéressant parce que ça a été sorti en 2004, en février avril, et j'ai du Marc Bagley qui date de 93 et il y a pratiquement aucune ressemblance. On voit la différence de technique, hein, c'est-à-dire qu'au départ là le Bagley de Hulk et Spider-Man c'est à la main, et là ben ok, bien l'ordinateur,
colorisation,
la palette
informatique,
graphique est passée par là, et pourtant c'est le même dessinateur au départ, Marc Bagley. Donc
non mais attends, faut oublier qu'aux États-Unis le dessinateur fait que les crayonnés,
oui,
il y a les encreurs, il y a les coloristes,
oui,
et les lettreurs,
non, mais tout à fait. Mais non, mais pour dire, hein, je veux dire, même les la forme des visages, ça n'a plus rien à voir, hein, c'est ça n'a plus rien à voir.
J'ai vu des boulots d'encreur massacrer le boulot d'excellent crayonné, hein.
non mais là c'est pas le cas, hein, de toute façon. Ce qui est intéressant, c'est que l'histoire est en quatre parties, un close part 1, 2, 3 and 4 avec The Black Cat, Shadow Puppet, Cat Fight et Daughters, donc scénarisé par Brian Michael Bendis et dessiné par Marc Bagley. Et moi j'adore aussi le Spider-Man et la Veuve Noire, c'est la petite histoire séparée. Pourquoi? Parce que j'adore le dessin de Terry Moore, que je connaissais pas non plus, mais j'aime bien cette espèce de dessin un petit peu classique comme ça quoi, mais qui vraiment est très agréable pour les yeux. Ça nous change des bandes dessinées un petit peu plus dynamiques comme ça, mais c'est quand même du très très haut niveau. Et dans le fascicule, eh bien là il s'agit non plus la série de Paul Jenkins et Paul Rivera, mais d'une histoire donc séparée et qui s'appelle Combat de chat, avec également une histoire de Puma contre le Black Cat et Spider-Man bien sûr. Scénarisé par Marc Sumerac et dessiné par Vincenç Villagrasa. Là, c'est un petit peu plus moderne quand même, mais bon, ça se laisse quand même bien lire, quoi. C'est sympathique, sans plus, on va dire, par rapport à ce qu'on a vu avant, justement.
Il est midi 57 minutes et 53 secondes. Sincère félicitations à JB d'ailleurs, depuis le temps qu'on l'a pas revu.
Bonjour JB.
Bah oui, mais merci pour la carte, elle était super sympa. Voilà, et on va faire les sorties on va faire une sortie cinéma juste après, on fait une petite pause. Parce que une heure non-stop de parole, vous devez en avoir à le bol. The Wise Guys featuring Sounds Live, Who the Hell.
the Ernest or the Gallo, maybe even Bowler. For us till I put on my parka, flashlight of a sun because the world be getting darker. Weather is forecasted, rappers will get blasted with thunder and lightning, and everything is frightening to the essence. Still I give them all 8 million blessings. They jealous, overzealous, disjoint as well as in the chickens and the PJs. Influential DJs spark this, set the fucking party like the dawn. Says the day spike the party like McCarty in the punch. Don't front, hanging out in the point called Hunt, hitting mad runs before they was pop up in the op shop. They be resurrecting straight Bronx hip hop. It's sad but true, y'all, but every time I speak, seems that your fucking style sounds weak. I'm just trying to get the freak on, y'all. Week on the week on and on and on and on. 52 to be exact, you know. I wrote the rhyme that broke the rapper's back. I reign supreme, devils will not foil me. 100% straight up, Bronx royalty. When situations boil, we'll see who's really loyal. Toil, 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 247-365. Now that's all you ran, but I'm in your inner. If it's the first time that your Chevy got first, I'm sense live, I give you blessings, baby. Maybe catch the curse. Either way you work, see the way the crew will see the first. Lurks, but only in the mind of the beholder. Hooked up to speak with the mic, not with sofa.
Guys, extrait de l'album The Antidote. Oui, je sais, ça compte un peu. Avec Fin Sense Live. Et de suite, Grand Écran. Dolby Mono Surround.
Alors, avant de parler du film, on va parler de la fête du cinéma qui commence aujourd'hui.
Excuse-moi, j'ai pas le bon fond du coup.
Non, mais c'est pas grave, on s'en fout. Avant de parler du film, donc Terminator Renaissance, on parle de la fête du cinéma qui commence aujourd'hui, samedi 27 juin, et qui se déroulera exceptionnellement pour la première année pendant une semaine complète jusqu'au dimanche 3 juillet. Par contre alors effectivement, on pouvait avoir des places réduites pendant plus de jours, mais la place est plus chère, c'est à 3€ cette fois-ci. Je vais rappeler les films qui sont à l'affiche pour vous donner un petit peu envie. Alors il y a Transformers 2, Coraline, Vertige. Sur le texte sur l'affiche, c'est un film français, ils disent c'est mieux que Cliffhanger, c'est plus réaliste. Ils disent c'est comme Cliffhanger mais le réalisme en plus, voilà. Il y a Blood the Last Vampire, l'adaptation du moyen-métrage animé japonais. Il se fait défoncer par tout le monde.
Lequel?
Blood.
Blood? Ah, ok. Non, je croyais que c'était un autre...
Sinon, mercredi, il y a L'Âge de Glace 3 qui sort. Donc, vous pourrez y aller à prix réduit. Il y a Étreinte Brisée d'Almodovar. Il y a Very Bad Trip.
Anna Montana, le film. Alors, je fais pêle-mêle hein, pour intéresser tous les publics. Il y a Antichrist de Lars von Trier, Dans la brume électrique, qui est toujours à l'affiche, Looking for Eric, Ange et démon, La nuit au musée 2, Hanté par ses ex, Les Lascars, Les beaux gosses, Jeux de pouvoir, Millennium le film, Jusqu'en enfer, Incognito, et il y a même OSS 117. Je pense qu'il y a quand même moyen de vous faire plaisir si vous avez pas vu.
Il y a au moins 50% de très bons produits parmi tout ce que tu as cité.
Voilà, tout à fait, de genres tout à fait divers.
Et donc, t'es allé voir un de ceux-là déjà ? Enfin, la plupart, tu as déjà dit, d'accord.
Alors,
si
à part.
Tu peux parler dans l'axe du micro, ça m'aiderait.
Alors, à part.
Je fais ce que je peux.
À part OSS 117 que j'ai déjà vu, le reste est à découvrir pendant la fête du cinéma, donc c'est pas mal. Voilà, les gros trucs, Transformers 2, on a aussi du film d'auteur, on a des films qui sont sortis il y a longtemps, qui passent plus qu'en une séance unique chaque jour en VF, genre c'est le cas du film de Sam Raimi Jusqu'en enfer, et d'autres aussi, JB m'a fauché la feuille.
Non, le Sam Raimi a de très très bonnes critiques. Le Very Bad Trip, paraît-il, est très bon comme comédie actuellement. Les Lascars, très bonne surprise la semaine dernière.
Ouais, parce que moi, franchement, j'avais. Enfin, si, les petits cours en dessin animé étaient pas mal, mais la bande dessinée m'avait un petit peu déçu.
Moi, je suis rebuté par le graphisme. Mais...
Ouais,
bah, j'ai du mal au graphisme aussi. Mais les critiques sont vraiment élogieuses.
Ah ouais,
d'autant plus avec Les Beaux Gosses qui est sorti cette semaine ou la semaine dernière.
Ouais, il y a pas longtemps.
Ouais, et paraît-il, non, la semaine dernière, très bon démarrage, très bon. Très bonne critique, autant via du public que de la presse. Hop, je montre à Duce au cas où.
Moi, j'ai dit à Sabrina, il faudrait qu'on aille voir Transformers 2. Elle m'a accusé d'aller le voir que pour Megan Fox. Alors, qu'est-ce que tu veux répondre à ça ? Mais non, on y va pour les robots.
Il faut que tu sois consolé. Il faut que tu ailles te consoler. Fausset est morte.
Ah oui.
Drôle de dame.
Ah oui, l'autre là.
Ouais, c'est un maillot rouge avec les bouclettes.
Voilà, donc ce qu'on pouvait dire sur la fête du cinéma, vous payez la première séance plein pot, débrouillez-vous pour y aller à un cinéma qui fait les places moins chères en plein pot, donc ça vous reviendra moins cher, et après...
Matin
non, genre à Ré-Essai.
Parce que le
matin, à Ré-Essai aussi, c'est encore moins cher.
Oui, mais le matin, si dans les cinémas normaux comme UGC ou Gaumont, tu payes ta place plein pot, c'est pas à séance de 11h.
C'est existe
pas
si, non, mais pour
la fête du cinéma, il faut plein pot. Il y a pas d'option.
C'est plein pot, ouais.
Okay. Voilà.
C'est pour ça qu'il y a tant de films dans les cinémas RAC dont on pense à côté.
Ah, tout d'un coup, les gens s'intéressent au cinéma suédois, voire.
Attends, c'est Millennium, voilà. Hein. Ah, j'ai vu un film suédois dans ma vie.
Oh, t'es méchant.
J'ai tendu la perche. Je l'ai tendu là.
Ouais, c'est clair. Moi, j'adore ce cinéma-là. Bon, pas tous, hein. Les Bergman, je suis pas très fan. Mais franchement, les Insomnia, les quoi ?
Tu as tort.
Ça, je veux bien croire. Hein, mais bon.
Tu peux enlever le tréma de ton haut là. Ça passe mal au micro.
Thor, THOR, évidemment. Hein, voilà. On l'avait tous compris. Non, qu'est-ce que je veux dire ? L'Insomnia, par exemple, ça a été repris par le cinéma américain.
Oui, c'était suédois.
C'était suédois.
Oui, mais je préfère l'original.
C'était suédois. D'accord.
L'original était vachement bien.
Il était très très fort.
T'as plein de reprises.
On va peut-être avancer parce qu'il est 13h05 et je m'inquiète de la rubrique.
Allez, on va essayer de parler d'un film un peu plus intelligent. Terminator Renaissance. Un film de Mac G avec Christian Bale, Sam Worthington, Helena Bonham Carter et Bryce Dallas Howard, entre autres. Alors en 2018, c'est pas de bol, le jugement dernier a finalement été déclenché par l'intelligence artificielle Skynet. Pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé de l'empêcher, hein. Mais non, finalement, c'était pas possible. Et la guerre entre les humains et les machines fait rage. John Connor s'appuie sur les messages enregistrés par sa mère pour lutter contre l'ennemi, et du coup, il est un peu considéré comme un. Par ses hommes comme un prophète, puisqu'il sait un peu comment sont les Terminators et tout. Pendant ce temps, Marcus, un criminel autrefois exécuté, se réveille en plein milieu d'un affrontement entre humains et machines, et il est devenu un cyborg malgré lui. Les deux hommes vont devoir se faire confiance pour annihiler les plans de Skynet, et puis voilà, et s'associer quoi. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce premier épisode d'une nouvelle trilogie, en fait, il s'affranchit bel et bien du lourd héritage de James Cameron. En tout cas, il a le courage de faire ça. Hein. Alors, c'est du poussiéreux, du nerveux, c'est brutal, c'est de la grosse baston avec plein d'effets partout. On abandonne les teintes bleutées nocturnes de Cameron hein, pour aller vers du Mad Max, hein, de la poussière, ces deux jours. Hein. Alors l'introduction du film des ménages avec ce putain de plan séquence qui a été relayé un peu partout, hein. C'est on voit John Connor en fait en plein chaos avec des missiles de partout. Il essaie de faire décoller un hélico et c'est toujours en plein séquence et avec la caméra qui tourne autour de l'hélico et l'hélico se fait dégommer par une machine et gros crash et Connor s'extirpe des décombres de l'hélico et tout ça en plein séquence. C'est quand même le film commence à peu près par là. Ouais, bien, ok. Alors voilà, le film s'affranchit de Cameron, mais qu'est-ce qu'on a à la place ? Eh bien, c'est là que le bas blesse, puisque les fans de Terminator diront que c'est nul à chier, les autres vont avoir un petit bâillement à la fin, puisque en fait, la saga Terminator vire vraiment au blockbuster décérébré d'été, en fait. C'est ça qui est dommage. Alors, excite tous les thèmes de prédilection de la saga, c'est-à-dire la lutte impossible contre le futur, essayer de se prendre en charge par rapport au destin qui est programmé, l'affrontement chair-machine, tous les thèmes développés par Cameron avec justement cette vision cauchemardesque du Terminator qui est indestructible. Bah là, non, en fait. T'as même un caméo de Schwarzenegger qui n'en est pas un, puisque c'est un Schwarzenegger numérique, qui est le T-800 qui arrive. Et bien le T-800 il était indestructible dans le 1 et le 2 du Terminator. Et ben là en fait il se fait dégommer assez vite. Pour un Terminator il prend vachement de temps pour jouer avec la victime, hein, au lieu de faire un scratch. Tu dis mais c'est quoi cette merde. À un moment donné les humains arrivent.
C'est
Vista. Ouais. Les humains arrivent dans le QG des machines, alors bizarrement il y a toujours une salle immaculée blanche avec rien qui dépasse, on se demande à quoi ça sert puisque les machines ils en ont rien à foutre, c'est du métal et des câbles, alors bon là c'est quand même super bien éclairé pour au cas où il y a des humains qui arrivent dans le QG hein, et qui veulent faire tout péter. S'ils veulent faire tout péter, sachez que c'est super facile parce qu'il y a les ogives nucléaires qui sont placées à côté de la salle du métal en fusion.
Trop cool.
Oh là là, ça tombe bien. Bon, voilà. Sans compter qu'à la fin, on t'aperçoit que tout le scénario du film c'était un plan ourdi par Skynet. C'était on va tous expliquer pendant 10 minutes. Tout ça, c'était un plan concocté par nous. Là, tu es allé dans un point d'un point A à un point B. Et ben c'est nous qui le voulions. Tout ça, c'était pour faire sortir John Connor de sa cachette. Voilà. Donc au final Terminator Renaissance c'est un bon film de baston de guerre nerveux mais un très mauvais Terminator et voilà tu sors du film c'était léger quoi.
T'étais déjà bien dégoûté de la fin de la série Sarah Connor's Chronicle.
La fin était exceptionnelle, je suis dégoûté surtout qu'ils aient pas reconnu la série.
Voilà. Parce que, Et là, mais merde, qu'est-ce qu'ils font de la franchise ?
Voilà, autant se revoir pour la 150e fois les deux premiers, hein, puisque bon, le 3, on va passer, c'est anecdotique, même s'il y a Christina Loken dedans. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu le film ici ?
Non. Le Renaissance ?
Oui.
Non, pas encore.
Bon, sinon, au niveau du casting, le nouveau personnage qui est Marcus, il est correct, c'est juste qu'il est complètement anecdotique et qu'il sert à rien. Mais sinon, le personnage en lui-même est bien. Christian Bale se débrouille pas mal en John Connor, même si on sent que ça va vraiment exploser dans les deux suites, puisque là, pour l'instant, il est assez effacé, registre un peu plus surexcité que...
Attends, tu veux dire qu'il y aura une suite ?
Dans les deux suites, tu viens de dire ?
Ah oui, puisqu'au début je disais que c'était le premier épisode d'une nouvelle trilogie.
Moi j'ai un avis personnel sur la question.
Oui.
Mais...
Il est temps pour lui que cela cesse.
En effet.
Merci.
Voilà. Donc Terminator Renaissance de Mac G avec Christian Bale, Sam Worthington et Helena Bonham Carter et Bryce Dallas Howard. Un film dont le tournage a beaucoup fait parler, hein, puisque le fameux fucking de Christian Bale et le tournage endeuillé par la mort d'une grosse partie de la famille d'Helena Bonham Carter en accident de voiture. Donc elle a dû interrompre le tournage exprès pour aller là-bas. Voilà. Donc ce qu'on pouvait dire sur le film.
Inquiétant. Réalisé par ?
Par Mac G. De son vrai nom, je ne sais pas.
Encore plus inquiétant.
Voilà, c'est ça.
Mais Mac G n'a pas fait que les bouses.
Alors qu'est-ce qu'il a fait ? À part les Charlie, ce drôle de dame. Là.
Mais moi, j'ai bien aimé les drôles de dames. Surtout, le premier notamment.
Ah ouais, c'est bien, avec cet effet Matrix, là où elles sont ralenties. Trop bien.
Il a fait une série rigolote de vampires action.
Au second degré, moi, je trouvais que ça passait sympa.
Il a fait une série de vampires action là, qui passe sur M6, j'ai oublié le nom. Ça passe en deuxième partie du samedi soir.
Tu parles de
Supernatural.
Voilà.
Ah, d'accord.
Voilà. C'est Mac G, là, il est que producteur. Si, c'est Mac G. Bon, c'est lui qui a réalisé le premier épisode, d'ailleurs. Du sport.
Ah, peut-être.
Bon, et ben on va rebooter le du sport. Oui, pardon. Oui, pardon.
Tu as fait mal aux oreilles.
Ok. Bon, Dus, allez hop.
Wouhou! J'aime bien ça.
Ah ouais, alors on va couper le truc en deux. Et donc pour illustrer musicalement, il y a le premier disque là que tu mets, tu regardes les titres et tu choisis le morceau que tu veux, il n'y a pas de problème. Ça roule. On attaque avec les 20 ans de Fort Boyard.
Eva Longoria.
Ah ouais, tout à fait, t'as tout compris. Ce soir, donc, c'est à 20h35 et c'est pas le seul qu'il va y avoir, hein, il va y en avoir d'autres au courant de l'été pour le prestige. Fort Boyard, donc, quelques petites choses, hein, c'est Jacques-Antoine, donc le créateur de la série, créateur de nombreux jeux d'ailleurs qui.
Le compte est bon, le mot le plus long.
Ouais, des jeux qui sont pérennes encore à la télé. Hein,
les chiffres et des lettres.
Oui, des chiffres et des lettres, entre
c'est
autres.
C'est pas Armand Jameau, ça
c'était Armand Jameau.
Avec Armand Jameau, quoi. Et Jacques-Antoine, quoi.
Et okay. Les jeux avec des hélicoptères dedans.
Et ouais, avec Philippe de Dieu le veut. Ah, d'ailleurs, eh bien, c'est l'original. L'original au départ, quoi.
À l'époque, la téléphonie 3G, il fallait non seulement un gros casque et tout ça, mais il fallait un caméraman avec l'antenne satellite.
Ouais, ouais, non, l'original, hein, mais c'est une idée qu'ils ont eue parce que, bon, ils ont fait un tournage avec Philippe Dieuleveux de la chasse au trésor dans ce fameux Fort Boyard. Et donc, comme lui, il avait déjà vu ce Fort Boyard dans une des scènes du film Les Aventuriers, je sais pas si vous vous rappelez, quoi, ce truc, les avec Alain Delon et Lino Ventura. Je sais pas si vous rappelez ce film, mais enfin bon, film assez intéressant, c'est assez rigolo. Et qui est également, il y a une je crois au bout de 10 minutes, un quart d'heure et tout, il y a pas mal de scènes qui sont tournées dans ce fort. Et donc au départ, eh bien, il se dit pas, ce serait pas mal d'organiser un truc avec ce décor naturel, mais les chaînes françaises refusent de programmer un truc là. Et donc c'est les chaînes anglaises qui vont s'y intéresser. Et donc le pilote, il va être tourné avec... avec non pas Fort Boyard mais en studio à Londres, hein. C'est assez arbre comme ça, quoi. Mais bon, par la suite il réussit quand même à faire acheter le concept aux chaînes françaises, et c'est donc une chaîne française qui commence à diffuser le Fort Boyard. Alors il faut savoir que bon, le principe c'est toujours le même, hein, c'est-à-dire qu'il y a plein d'épreuves et tout, plus ou moins codifiées, toujours plus ou moins les mêmes et tout, et il s'agit pour une association voire plusieurs associations
caritatives. Ce qui arrivait à la troisième ou quatrième saison, je crois,
voilà,
quand ils ont commencé
au
à
départ,
mettre des
c'était purement ludique, hein, c'est-à-dire c'est l'occasion de voir des personnalités de la télé, du showbiz, bien dans un autre monde que le monde où on a l'habitude de les voir, c'est-à-dire les voir un petit peu en difficulté, quoi, insecure. Et alors il faut savoir au niveau du pognon récolté que ce sont les Yamakasi qui ont ramassé le plus de pognon, qui détiennent le record.
Donc eux qui ont été les plus forts.
Ouais, les plus forts, hein, 37 000, un peu plus de 37 000 euros, alors que le plus petit butin a été ramassé par Tex, l'animateur, avec 700 euros. C'est tout sur l'ensemble.
Oh merde.
On voit que c'est un physique, ça, déjà.
Alors le concept, bien sûr, l'émission originale est revendue dans de nombreux pays, mais il y a également des adaptations. Il faut savoir que le Fort Boyard, maintenant, ne sert plus qu'à ça. Et il y a d'autres chaînes, que ce soit des chaînes européennes ou pas européennes, eh bien, viennent tourner dans le Fort Boyard leur version de Fort Boyard. Avec, par exemple, la version coréenne où le père Fouras, il n'a pas le même look, il est habillé en Napoléon. Hein. Voilà la photo.
Oh non, on dirait Takeshi Castle.
Exactement, t'as tout compris. Ça m'a fait penser à ça directement.
Okay. Genre tête de courrier avec le chapeau de Napoléon.
Je suis vraiment désolé pour les auditeurs qui n'ont pas payé la redevance couleur, mais
il ne connaît pas Takeshi Castle.
C'est un truc sur le câble, ouais. C'est, non, tu vois, c'est Takeshi Kitano.
Ce qu'il faisait dans les années 80, c'était un show, une
sorte de
light.
Jeu sans frontières, voilà, le plus débile possible,
avec pas mal de boue et sans vachette.
Chouette.
Ouais, mais par contre des gros physique, costauds qui foutent des grosses baffes.
Non, c'est pas forcément des gros costauds, hein.
Ouais, mais ils foutent des baffes quand même, hein. petites étudiantes qui sont les gagnées.
Tu te prends un mur dans la gueule et le mur, il y a une silhouette qui est découpée dedans et c'est très cartoon et le mec il doit se mettre.
Oui, ça j'ai déjà vu, mais c'est.
Non, ça c'est un jeu coréen. Ça c'est un jeu coréen.
Ah d'accord.
Ça c'est un jeu japonais.
Oui, mais ça c'est. Non, non, l'histoire du mur, ça a été adapté par Laurence Boccolini sur TMC, je te signale.
Mais moi quand c'était sorti. ils en parlaient comme quoi c'était un jeu japonais. On voyait des images de jeux japonais, non pas coréens.
Je te jure que le concept
il y avait
les
programmes plutôt japonais. Tu vois la différence
quand même. Non, mais ils ont racheté.
Ils ont racheté les droits. C'est comme c'est comme un coréen qui voit Fort Boyard version suédoise et qui dit ah c'est suédois. Évidemment, non, c'est français.
Enfin, tu vois. Et question de Suède aujourd'hui. Suédois.
Bon, tu veux qu'on parle de l'habillage pour la semaine suédoise sur Paris 1ère?
L'émission spéciale Beyond Board, justement.
Où ils disent que la Suède c'est que Ikea?
Non, parce qu'il faut savoir que lors d'une épreuve de Fort Boyard, il y a une candidate suédoise qui s'est cassée les deux chevilles. Et comme.
Heureusement
elle a fait preuve de vachement de courage et tout. C'est elle qui, par la suite, est devenue l'animatrice de Fort Boyard version suédoise.
Donc ça a marqué.
Bon, alors ce soir, t'as déjà un petit peu défloré le programme de ce Fort Boyard spécial ce soir avec surtout Tony Parker et Eva Longoria, mais également le petit frère de Tony. Alors on connaissait Tigi hein, qui est également basketteur,
il est petit
qui joue
parce
dans
qu'il
le
est pas
championnat de France, mais il y a également Pierre qui est le plus jeune hein, qu'on connaît un petit peu moins quoi.
Ah Pierre, et Peter Parker.
Peter, bien joué. Et un autre basketteur, Alexis Rambure. Sinon on aura également également dans l'équipe Gaëtan Muller qui est consultant sportif et Philippe Virlogeux ainsi que Laetitia Payard. Il joue pour l'association présidée par Eva Longoria qui s'appelle Make a Wish France, bien entendu, donc pour ramasser des gains ce soir. Donc c'est ce soir à partir de 20h35, Fort Boyard.
Il y a un truc que t'as pas dit, c'est que l'émission en 20 ans a eu plusieurs formules. Donc
ils ont tourné
de nuit aussi à un moment donné. Et l'un des grands moments de Fort Boyard, malgré justement le Fort Boyard et au grand désarroi de Patrice Lafont, c'était vraiment la participation de Bono Solo qui avait foutu le why monstrueux.
Merci.
Et qui fait les beaux jours des retrospectives de Bêtisier à la télé. Je sais pas si vous l'avez vu, cette émission en direct.
Ça c'est clair. En tout cas, il y a une interview croisée. Il y a une interview croisée dans le Télécap Satellite, donc de Olivier Mine et de
Patrice Lafont.
Donc où justement, pour Patrice Lafont, l'épisode le plus désagréable, c'est entendu.
Ah oui, ça lui a pas plu. Hein.
Ah non, pas du tout, mais pas du tout quoi. Et quand on sait que Patrice
depuis
Lafont,
il fait du poker, il y a moins de risques.
Pour choisir ses mots, c'est un personnage qui est quand même relativement grossier, aux antennes, hein, on va dire. Donc,
on va dire qu'il a moins d'éducation que son dictionnaire de père. Hein.
Ouais.
Mais il disait disait qu'il avait pas bouffé avec les candidats à la fin. C'est la seule fois où il avait fait ça d'habitude. C'est le repas finalement pour finir l'émission. Et là, il avait refusé de bouffer avec eux tellement il avait saoulé. Il faisait la gueule. En plus, il faut savoir, il a une des recettes de Fort Boyard, c'est que.
Il marque une hyène à côté de Thomas. Merci, allez chercher cette bouteille.
Et donc dans le Fort Boyard, tu vas d'une cellule en cellule, des fois elles sont juste à côté, mais t'es obligé de faire tout le tour du fort pour faire croire que c'est super loin. Et Bruno Solo avait dit c'est nul, on aurait pu faire. Elle est juste à côté, la fond il fait
ta gueule.
Je connais pas du tout ce moment-là de télé.
Oh, t'inquiète, tu la verras.
Qu'est-ce qu'il avait fait solo pour.
Il avait tourné en dérision tout le fort. Il avait, à un moment donné, il y avait une épreuve avec un tapis roulant où il y avait des seaux d'eau. Il s'était foutu les seaux d'eau sur la gueule. Il y a les caméramans, ils disaient ils arrivaient plus à cadrer tellement ils étaient morts de rire.
Donc Fort Boyard ce soir à partir de 20h35 sur France 2. Dans la catégorie série, c'est toujours le calme plat, hein, ça, il n'y a pas de problème. Alors tout d'abord, deux séries qui sont sorties il y a quelques semaines dont j'ai pas pu parler parce que on faisait pas d'émission tout simplement. Tout d'abord, la série qui remplace l'inspecteur Lewis le dimanche soir sur France 3, les enquêtes de Murdoch. Alors c'est canadien, c'est relativement intéressant on va dire, mais ça pisse pas haut quoi. C'est interprété pour le rôle principal, le rôle de Murdoch, par Yannick Bisson, qui auparavant officiait plutôt dans on va dire le feuilleton pour ados, le truc bête un petit peu décérébré. Là c'est le propos est tout à fait différent. Il s'agit ni plus ni moins que d'un espèce de Sherlock Holmes transposé dans un monde western, enfin urbain, on va dire, hein, on est à la fin des années. À la même période que Conan Doyle va écrire ses premières histoires de fin des années 80, 1800. 1880.
Hein, donc c'est victorien, quoi.
Ouais, tout à, non, parce que ça se passe au Canada. Hein,
oui, donc, mais je veux dire, c'est par Guy's Light.
Il y a d'ailleurs même un épisode où Conan Doyle intervient en tant que personnage parce que il est en train de faire une tournée aux États-Unis et au Canada pour populariser l'hypnotisme et le mesmérisme, comme on disait à l'époque. Donc c'est assez rigolo, ça se laisse voir, mais enfin bon, ça pisse quand même pas haut. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir que, bon, justement, au contraire, dans un pays complètement neuf comme le Canada ou comme les États-Unis à la fin des années 1880, bon, les gens se cherchaient, c'était encore relativement rustre, rude, alors que lui, bien, va faire appel à des techniques un petit peu modernes, genre essayer de faire le CSI, mais avec les méthodes du coin. Mais il va quand même essayer, grâce aux nouvelles méthodes à la fin des années 1880, il y a beaucoup de technologies qui sont développées, beaucoup d'inventions, hein, qui.
Bah, la police scientifique a été inventée en France à la fin du 19e.
Il parle justement de Bertillon, il cite Bertillon qui est déjà en France en train d'instaurer son système de fiches anthropométriques avec les empreintes digitales et tout le bordel.
Sans compter que le professeur Bell, celui dont le personnage a inspiré à Conan Doyle, celui de Sherlock Holmes. Voilà.
Alors c'est les enquêtes de Murdoch, ça se laisse regarder, mais enfin bon, je vous dis, hein, c'est pas transcendant à fond les manettes, mais enfin c'est quand même un excellent moment. Donc c'est le dimanche soir sur France 3 à partir de 20h35. Et sinon, qui a vu Fringe parmi vous? Alors tac tac. Alors un avis.
Roxor. Roxoris des mamans ours me fait mon oreillette.
Comment?
Roxoris des mamans ours.
Ça veut dire que c'est bien.
Ah bon, d'accord, ok.
Là, tu parles pas de Jones, toi.
9/20.
9 sur 20.
Ah, d'accord.
Ah bon, ouais, pas mal. Ouais. Je me rappelle plutôt de ton avis que de celui de.
Ah non, moi j'ai été agréablement surpris parce que bon, c'est vrai qu'il y a des très grosses ficelles et tout ça, mais il y a la performance d'acteur derrière. Il y a notamment celui qui joue le scientifique, un petit peu disjoncté, oui. En VO. Il y a une putain de performance avec un putain d'accent. Ça a regardé en VO. Hein. Parce que d'abord ils ont tous un accent et c'est vrai que dans les séries américaines ils s'embêtent pas d'avoir l'accent parisien de la télévision et tout, mais là c'est vraiment flag, hein. C'est-à-dire c'est un haïtien qui joue le rôle du FBI, ça se sent, et le scientifique qui est là, qui il le fait super bien. Il y a un jeu d'acteur qui est vraiment agréable, en plus de toutes les références qu'il y a derrière qui sont assez rigolotes. Après, le nombre d'études qu'il a fait en soi-disant une décennie, c'est vrai que c'est gros, mais je veux dire, bon, c'est Mac G, hein. Désolé. Okay.
Bon, ça se laisse regarder de toute façon, hein, mais bon, moi je suis un petit peu déçu, franchement, quoi. Ok, c'est quand même relativement du haut de gamme, hein, ça, y a pas de problème. Par contre, TF1 diffuse également une série inédite, et là c'est encore une, vous allez dire, encore une histoire
c'est
de vampire.
Sur quelle chaîne, Fringe?
C'est sur TF1 aussi, le mercredi après
Esprit Criminel. Voilà.
À 23h15 et des poussières et tout. C'est pour ça, déjà, bon, TF1, comme d'habitude, s'y prend toujours bien pour
mettre intéressé.
Pour promouvoir de bonnes séries, ouais. ou des séries qui pourraient intéresser un peu plus de gens.
Je crois que la problématique, c'est qu'ils avaient peur de mettre cette série plus tôt, parce que c'est vrai que les scènes d'ouverture, certaines sont assez chocs. Et notamment, il était prévu au départ les foutre en première partie de soirée. Et c'est le crash du vol Rio-Paris. Comme la scène d'ouverture du premier épisode,
oui, ça, bon, crash, on a compris.
Ils ont dit on décale.
Oui, ça, on a compris, quoi. Mais enfin, bon, le mettre à.
Mais c'était pas intelligent, c'est clair.
Un petit peu chiante, quoi. Surtout en plein milieu de semaine, hein. Ça vaut également pour le samedi soir où les épisodes inédits de New York, police judiciaire sont diffusés, la saison 18. Sont diffusés après des épisodes déjà vus de New York Unité Spéciale. Hein,
ah, mais non, mais attends, qu'est-ce que tu veux mettre en prime time? Il faut qu'on mette quand même des séries françaises.
Eh oui,
le lundi et le jeudi.
Eh ouais, mais par contre, sur la franchise CSI, pas de problème. On y a droit 3 jours par semaine. Et là, en prime time, que ce soit des épisodes moins 12 ou moins 10.
Je crois qu'en mai, on était à une moyenne de 14 épisodes des experts diffusés par semaine sur TF1. Pas mal. 14 heures de CSI sur 169.
Bon, on arrête de causer de ça parce que je vais encore être
aigri et
méchant, quoi. Donc TF1 diffuse à partir de mardi prochain également à une heure indue, on va dire, pour les gens qui travaillent, 23h15, une autre série de vampires qui s'appelle Moonlight, mais dont le traitement est légèrement différent, du moins c'est ce que laissent croire les différentes critiques que j'ai déjà pu lire à propos de cette série Moonlight, avec dans le rôle principal de Mick St. John, Alex O'Loughlin, qu'on allait voir également en guest star dans d'autres séries telles que Esprit Criminel, le jeu, un serial killer et d'autres encore. Jason Doring, qui lui eh ben était le copain un peu riche et tout, qui s'amourache et dont s'amourache Véronica Mars dans la première saison, et dont le père justement, interprété par Harry Hamlin, est le mec qui est le méchant de la première saison de Véronica Mars. Et Jason Doring, qui est pas mal comme acteur, qui est assez intéressant. Il y a également Sophia Miles et Jacob Vargas entre autres dans cette série Moonlight, donc diffusée sur TF1 mardi à partir de 23h15. Les deux premiers épisodes, 16 épisodes de la première saison, les deux premiers épisodes. Alors on va voir s'ils vont faire des jeux de mots systématiques sur les titres traduits en français. Le premier, c'est sur les dents. On parle de vampires. Le deuxième, c'est la morsure du passé. On parle toujours de vampires. On va voir s'ils vont pouvoir évoluer et tenir sur les 16 épisodes avec des titres allusions aux vampires ou aux morsures aux dents.
Je rassure pour tous ceux qui ne nous voient pas, mais en fait, JB rigolait, mais c'était pas des titres.
Ouais, voilà. Non mais JP, je pense pas qu'il veuille qu'on dise pourquoi il rigolait.
Et comme on parle de CSI, comme on parlait juste avant de CSI, eh bien Moonlight est diffusé juste après les trois épisodes ou trois épisodes de CSI Miami. C'est le mardi, bien entendu. Là, ce sont des épisodes inédits, la saison 7, donc à partir de 20h45, celui de 20h45 sous toutes les coutures est de la saison 7 et avec la participation d'Elizabeth Berkley. Ah, Showgirls, rappelez-vous, ouais, Elizabeth Berkley qui a d'ailleurs fait de guest starring dans d'autres séries, dont une excellente dans New York Section Criminelle avec Vincent D'Onofrio. Il jouait un rôle vraiment excellent, Elizabeth Berkley, donc qui montre qu'elle est pas elle s'est pas elle uniquement fait, montré ouais. Sa plastique
elle fait pas que les scripts
refaites depuis le temps quoi. D'ailleurs, ok, c'est comme ça. Encore dans le cadre des séries, là, je vous parle de Telenovela. Je vous en ai déjà parlé, mais comme ça, vite fait, quand c'était sorti sur France O, car c'est sorti au départ sur France O. Producteur, c'est le A de AB.
Azoulé.
Jean-Luc, de son prénom. Ouais. Et il y a déjà eu 100 épisodes de tournée.
Oh là là.
Diffusé sur France O. Ça débarque sur France 3 à partir de la semaine prochaine, l'après-midi. À 16h30, l'heure idéale pour regarder une telenovela. Juste après la sieste. Avec un petit thé glacé. Nickel. Alors, l'horaire est un petit peu décalé. Lundi 16h30, mardi, mercredi 16h05 et jeudi, vendredi 16h30 pour la baie des flamboyants. Donc, sans épisode. Cette telenovela a été achetée par la chaîne qui est la référence au niveau diffusion de telenovela, à savoir TV Globo au Brésil.
Attention, hein, faut pas oublier que le mercredi, c'est les séances de questions au gouvernement par le Parlement. Donc ça peut paraître pareil, mais c'est pas la même chose.
Mais oui. Et ça a été également acheté par des chaînes allemandes, espagnoles, en Chine. Enfin bon, ça marche quand même pas mal. Alors le casting est hétéroclite et on se demande si ces gens-là, on se dit ouais, bon, de toute façon on a choisi des mecs qui ont une super plastique, des nanas qui ont comme ça se passe sur les îles, de toute façon ils sont en maillot de bain tout le temps, dans des demeures somptueuses et tout. C'est un petit peu Trip Dallas, tu vois, ouais, c'est-à-dire la famille qui s'entre-déchire, des complots, des alliances, des mésalliances et tout. Non, ils sont pas tous blancs.
Non, parce que au Mexique c'est étonnant parce que tous les acteurs sont pas longs, excepté les domestiques, ils ressemblent en rien à des Mexicains typiques.
Non. Là, il y a beaucoup de gens du cru, hein, de toute façon, quoi. À commencer par Siegfried Ventadour, Mister Guadeloupe. Il y a également Anthony Lemourou, gagnant Top Model de France 2008. Luana Papa, une surfeuse. Ambre Lemel, finaliste du concours Elite. Cindy Minacci, qui est mannequin. Lucas Descours, rappelez-vous, Lucas, la Starac 2. Et également des ex de Hélène et les garçons. Lali Maignan, Laure Guibert,
ah ouais,
et surtout, Sébastien Rock, Cris d'amour.
Non.
Entre autres, donc, il y en a tout
international.
Ah ouais, c'est carrément international. Donc, c'est la baie des flamboyants, diffusée sur France 3 à partir de lundi prochain.
C'est la fine fleur de la sitcom internationale.
Tout à fait.
T'as Lali Maignan, quoi. Et mes garçons. Et
allez. Avant de parler des films.
Un verre d'un pour JP, merci.
avant de parler des films à la télé, vite fait, le one shot note de ce soir sur Arte, alors j'ai même pas noté l'heure, mais c'est vers 23h, 23h15. C'est une bonne affiche, on va dire, hein, qu'on va d'ailleurs illustrer musicalement, quoi. Je dis ça comme ça, il est prêt à appuyer sur le bouton. Avec Archive, avec
Archive.
The Rakes.
Archive.
Ouais, mais on est en France, quoi. Avec The Rakes.
Quand tu vas au McDo, tu demandes un hamburger, c'est ça?
Non, non, mais voilà. Si je le prononce à l'allemand, ils comprennent pas non plus, alors que ça décline de l'allemand au départ.
Archive. Ouais, quoi.
Bon, attention.
Hamburger.
Hamburger.
Ah, ouais. Non, attention, je viens de lancer le morceau.
Et Kitty, Daisy and Lewis que vous entendez actuellement. Alors c'est un trio d'anglais, c'est de frères et sœurs, hein,
et on va laisser courir le morceau.
16, 18 et 20 ans.
Sonolulu, Rocarola.
Voilà, ça c'est ce soir donc dans One Shot Note, l'émission de Manu Katché et Lumler, voilà, hein, co-présentatrice qui traduit d'ailleurs en allemand pour les téléspectateurs allemands de One Shot Note et de Arte, bien entendu. Cinéma à présent avec TCM qui fait aujourd'hui. C'est con parce que ce matin il y avait des films vraiment bien, quoi. Donc bon, ouais. Je vais pas le citer parce que bon, pas foutre les boules. C'est la journée gangster ou plutôt marathon gangster parce que ça a commencé ce matin à 5h du matin et il y en a jusqu'à 4h du matin demain matin, quoi. C'est-à-dire ouais. Que des films de gangsters.
Attention, c'est des rediffs, donc il y en avait certains qui ont été diffusés hier.
Ouais, ouais, non, mais bon.
Je me le suis mis derrière, c'est agréable.
Il y a beaucoup de beaucoup de classiques. TCM, TCM, donc.
TCM Cinéma.
Alors cet après-midi, donc à partir de 14h35, Cotton Club. Ensuite à 16h45, Donnie Brasco. À 18h50. Bonnie and Clyde. Alors là, le terme gangster est, on va dire, limite, hein, on va dire, parce que gangster qui fait partie d'un groupe, hein, d'un gang, quoi. Et là, bon, ben, Bonnie and Clyde était que deux. Mais ils étaient dans la période, justement, où le terme gangster a été, c'est-à-dire les vrais Bonnie and Clyde étaient dans la période où, justement, ont été popularisés les gangsters et tout, grâce au FBI d'ailleurs. D'ailleurs, hein, qui était chargé de les poursuivre. C'était la première mission au départ de la création du FBI par Hoover. C'était une des premières missions, hein, c'était de chasser justement ce genre de.
Les gangsters, mais attention, il n'y a pas de criminalité organisée.
Et non, bien sûr. Alors, ça c'est Bonnie and Clyde, c'est un petit aparté comme ça. 21h, Scarface de De Palma, donc en 83, ouais. Suivi à 23h50 du Scarface de Howard Cox, l'original donc en 32, avec.
Boris Karloff.
Money. Paul Mooney, bien entendu. Paul Mooney et également George Raft, Boris Karloff et Anne Dvorak. Et à 1h25 après Scarface de Hawks, toujours sur TCM, le massacre de la Saint-Valentin. Un Corman qui est relativement connu, qui est pas mal, qui est bien rigolo et tout, qui est assez sanglant, hein, d'ailleurs. Hein, il est catégorisé moins 12. Et suivi également d'un film magnifique à 3h05, Little César, le petit César de Mervyn Leroy en 1930. Hein, des premiers parlants, mais oh, excellent, hein, nickel, quoi. Tout ça, donc, c'est ce soir. C'est en ce moment, donc, sur TCM jusqu'à demain matin. Vite fait, des films, il n'y a pas de thématique, il n'y a que dalle, mais enfin, généralement, c'est des films relativement intéressants. S'il y a quand même quelques petits
trucs. Il n'a pas envie de parler de sport, là, parce qu'il est 13h38.
Non, mais il n'y a pas grand chose, quoi. Tu vois, vraiment, c'est assez le calme plat, quoi, de toute façon.
Assez le calme plat.
Oui. Non, mais bon, il faut attendre le départ du tour la semaine prochaine, quoi, mon gars.
Aussi, à Wimbledon, là.
Dédrogué, ouais, bon. Dédrogué. Ça se pique pas assez à
Wimbledon. Ce soir, un seul film sur RTL9. Je crois que j'avais déjà chroniqué il y a pas longtemps. À 20h35, Les Chiens Verts du Désert d'Umberto Lenzi. Avec Ken Clark, Horst Frank et Carlo Interman, entre autres. C'est un film italien, mais enfin, il y a personne qui a un nom italien là-dedans. Et ça raconte l'histoire de baroudeurs, de mercenaires allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui vont essayer de rallier Casablanca pour tuer Churchill, Roosevelt et De Gaulle. Tous en même temps, quoi, tu vois, quoi. Enfin bon, c'est plus ou moins basé sur des faits historiques, mais enfin bon, ok, hein, vous avez compris. Umberto Lenzi sait s'en affranchir assez allègrement par moment. Ça, c'est ce soir sur RTL9 à 20h35. Demain soir, magnifique Arte théma consacré à Steve McQueen avec le film de Franklin G. Schaffner en 73, Papillon, où McQueen est magnifique. Dustin Hoffman est excellent, grandiose. Il y a également Tony Zerb dans ce Papillon, tiré du bouquin écrit par Henri Charrière, dont une décennie ou un peu plus d'une décennie plus tard, on a appris que bon, la plupart des trucs qu'il avait écrit dans son bouquin, que soi-disant c'était une histoire vraie, c'était plus ou moins bidonné. En particulier la séquence de l'évasion. Mais bon, ça n'ôte en rien au charme du film. Vraiment, vraiment bien dirigé, bien interprété, c'est magnifique. Suivi d'un documentaire à 23h05. Le film dure très longtemps, hein, plus de 2h20, mais tu sens pas le temps passer, c'est vraiment très bien. À 23h05, un documentaire Steve McQueen l'indomptable de Mimi Friedman en 2005. Et demain soir, ah bah oui, il y a quand même Soldier sur RTL9 avec Kurt Russell. Jason Scott Lee,
qui est sympa, il casse pas des briques, mais il est bien.
Ouais, ouais, bon, non, mais bon, il y a un casting en béton, Sean Pertwee, Jason Isaacs, Connie Nielsen, bon, ça va, hein, ça tient la route,
oui,
y a pas
Connie
de problème.
Connie Nielsen, ça va.
Ouais, ouais, tranquille, quoi. Alors, demain, que des films oscarisés. Sur Paris Première, tout d'abord, à 20h40, La Conquête de l'Ouest, celui-là, il est excellent. Réalisé par trois metteurs en scène différents, donc un parce qu'il est il est hyper long, quoi. John Ford, Henry Hathaway et George Marshall. Et réalisé en 62, trois Oscars quand même, avec Carl Malden, James Stewart, John Wayne, Carol Baker et Henry Fonda, entre autres, hein, pour les rôles principaux. Ça, c'est quand même du lourd. Les points principaux, c'est du lourd, hein, en particulier le segment de Henry Hathaway, qui est celui qui déménage le plus. De toute façon, quoi, John Ford en 62, il était déjà un petit peu chancelant, on va dire, hein, donc bon, ok, il a fait ce qu'il a pu avec sa patte habituelle. Ça, c'est sur Paris Première demain soir à 20h40, et en même temps sur Direct 8 à 20h40, Patton, dont je parle et je repars, du même Franklin J. Schaffner en 70, donc 3 ans avant Papillon, qui fait Patton, 7 Oscars, George C. Scott magnifique, et également Carl Malden dedans, hein, donc il va falloir faire le choix, ou alors sur Cinéma Classique demain à 20h40, Viva Zapata d'Elia Kazan, 52, Marlon Brando, Gene Peters et Anthony Quinn, qui obtient l'Oscar du meilleur second rôle pour Viva Zapata. Sur TCM demain soir, spécial Fred Astaire avec tout d'abord moi, celui que je considère comme la meilleure comédie musicale que j'ai jamais vue de ma vie, La Belle de Moscou de Ruben Mamoulian en 57.
Ouais, attention, parce qu'il passe du Fred Astaire, mais c'est que des comédies musicales. Hein. Il faut un cycle.
Oui. Mais bon, avec Sid Charisse donc dans La Belle de Moscou et Peter Lorre. Ensuite, à 22h35. L'entrepreneur Monsieur Pietroff. Ce qui est intéressant, c'est que bon, à part La Belle de Moscou qui a été vue, archi revue, rediffusée à fond les manettes, parce que bon, c'est quand même un des fleurons du genre. Après, il y en a deux autres, mais qui sont plutôt assez méconnus, on va dire, du public européen, des gens qui sont pas tellement habitués à la comédie musicale. Tout d'abord, l'entrepreneur Monsieur Pietroff de Marc Sandrich en 37. Et là, c'était toute la série de films qu'il a fait avant d'être vraiment reconnu, hein, parce qu'il a eu une première période où il a joué dans début des années 30 jusqu'aux années 40 une tripotée de films, on va dire, de série B, en compagnie de Ginger Rogers. Le couple est devenu très très célèbre, très fameux.
Top Hat et tout ça.
Mais après, l'âge d'or, la comédie musicale, n'est intervenu que bien pratiquement deux décennies plus tard, hein, 15 ans ou 10-15 ans après, vers la deuxième partie des années 50, hein, avec tous les nombreux films signés de Rennes qu'on connaît, qui sont les fleurons du genre. Mais ça, c'est un film qui fait partie de la première vague, on va dire, les Ziegfeld Follies et tout ça.
Et
c'était directement bon, bah, du musical filmé, on va dire, hein, l'adaptation par le cinéma du musical, ce qui existait avant que le cinéma soit vraiment populaire. Après l'entrepreneur Monsieur Pietroff sur TCM demain soir à 0h25, Maman est à la page de Norman MacLeod en 50 avec Betty Hutton et bien entendu Fred Astaire. Norman MacLeod qui était spécialisé dans les années 30 et vers la fin des années 20 dans les films des frères Marx. lundi sur TCM, là, deux films magnifiques, excellents, polar. Alors, pour le second, je suis un petit peu sceptique, pourtant il est annoncé comme tel et il est diffusé par la chaîne Ciné Polar. Le premier sur TCM, toujours à 20h45, Le Point de Non-Retour, le titre original Point Blanc, tiré d'un bouquin de Richard Stark. Je vous ai parlé de Richard Stark, qui est l'alias de Ed McBain et qui est l'alias de Evan Hunter, bien entendu. Et là, c'est John Boorman qui réalise. C'est une de ses premières réalisations en 67 avec Lee Marvin, qui est absolument magnifique, excellent. John Vernon, Angie Dickinson et Keenan Wynn. Mais c'est un excellent polar, très très bon, très très bon. Ciné Polar, donc lundi prochain, vous diffuse également à 21h Le Grand Couteau de Robert Aldrich en 55. Alors là, c'est pas du tout un polar en fait. C'est pour ça que je comprends pas pourquoi. Mais c'est vrai que le climat est un petit peu délétère, un peu tendu. Hein, c'est histoire de interprété par Jack Palance qui là trouve un de ses rôles à mon avis. Il y a également Ida Lupino et Rod Steiger qui joue le rôle de son impresario. Jack Palance est un acteur à Hollywood et tout, et son impresario veut le faire continuer à le faire tourner pour des navets, alors que lui a envie de partir jouer une pièce de au théâtre. Enfin bon, et tout le film repose un petit peu sur la performance de Jack Palance opposé à Rod Steiger, avec en plus une Ida Lupino qui va mettre son petit grain de sel et tout, qui va foutre un petit peu sa merde. Parce que c'est la femme, enfin c'est plus un excellent film de mœurs que un vrai polar, hein, parce que bon, il y a pas de gun, ça tue pas quoi, mais c'est quand même excellent, et pour moi c'est l'un des meilleurs rôles de Jack Palance. Donc Ciné Polar lundi à 21h, Le Grand Couteau de Robert Aldrich. Mardi sur Ciné Cinéma Club, ah ouais, bah, un film pour toi Thomas, mais tu l'as déjà vu je crois, Élection 2 de Johnny To.
Hey, non, j'ai vu le 1. Ah, voilà, j'ai vu le 1 la semaine dernière.
C'est à 20h40 avec Louis Coe, Simon Gam, Nick et Ide Chung, entre autres. Mardi prochain.
Ce qu'il y a de bien dans le 1, c'est que au début, ça raconte l'histoire de deux membres de la triade qui vont se faire élire, donc ils sont en compétition les deux. Et celui qui joue le rôle du pas énervé, pour une fois, c'est Simon Yam, qui est toujours abonné au rôle de psychopathe chez Johnito. Et à la fin, il vire quand même au psychopathe. Ah, ça va, tout rentre dans l'ordre.
Mardi prochain également sur Ciné Cinéma Classique, deux excellents westerns. Dont surtout le à 20h40, la Chevauchée de la Vengeance de Bud Boticher en 59 avec Randolph Scott, Karen Steele et Lee Van Cleef. C'est un type qui va prendre en otage le frère du mec qui a assassiné sa femme, quoi. Donc pour essayer de faire venir le mec et tout. Mais c'est excellent, c'est vraiment très très bon. Suivi de L'Or des Pistoleros de William Graham en 67 à 21h55 avec James Coburn, Bruce Dern, qui est pas mal aussi. Bon, enfin, La Chevauchée de la Vengeance, celui-là, il tape bien. Et en même temps, mardi prochain sur TCM, hein, ça c'est un grand classique, à 20h45, Le Signe de Zorro de Ruben Mamoulian. Tiens, bah, le même que La Belle de Moscou. Mais là, bah, 17 ans avant, en 1940, avec Tyrone Power dans le rôle titre et Linda Darnell, ainsi que dans le rôle du méchant, Basil Rathbone, qui était abonné à l'époque au rôle de méchant, hein, surtout face à Errol Flynn. Mercredi, Orange Cinémax vous diffuse La Légende de Beowulf de Bob Zemeckis. Donc hein, ça regardait vraiment là, ouais, c'est bien. Bon, bien que le petit écran, bon, ça casse un peu le truc, mais ça tout à fait regardable de toute façon. Jeudi sur Canal Plus Cinéma, JCVD de Mabrouk El Mechri, pas de problème. Et vendredi, sur la chaîne Action à 21h, Je suis un aventurier, un Anthony Mann. C'est une soirée spéciale Anthony Mann. Tout d'abord, Je suis un aventurier, celui-là il est connu, hein, avec James Stewart, Ruth Roman et Corinne Calvet en 55. Et à 22h35, un autre Anthony Mann vachement connu, Winchester 73. Ça c'est vendredi sur la chaîne Action. Et n'oubliez pas, bah, vendredi soir, surtout à 22h15, 22h10,
Berlin, brigade criminelle.
Tout à fait. Dans l'épisode de hier soir, ils pètent les plombs, tous à fond les manettes et tout. T'en as deux qui. Ça commence par les deux inspecteurs, Léo qui normalement il sort avec une autre nana, une autre inspectrice. Les deux ils se retrouvent à poil dans un lit avec une nana. Ils savent pas comment ils sont arrivés là. Ils savent pas d'où ça vient. Enfin bon, ça c'est bien quoi. Une prise d'otage dans un centre de psychologie. Enfin bon, c'est excellent, très bon. La semaine prochaine, KDD, Berlin Brigade Criminale sur Arte à partir de 22h10. Voilà, j'ai terminé.
J'y vais, essayer de prendre le prompteur. Allez, hop.
Allez hop, Thomas, peux-tu faire le résumé pour ceux qui ont pris l'émission en cours de route?
Oui, tout à fait, c'est une émission spéciale Beyond Borg aujourd'hui, avec, avec pas moins de 12 BD chroniquées, et le, allant du meilleur au pire d'ailleurs. Nous avons une discussion entre pour savoir si Hulk Gris était-il plus intelligent que Hulk Vert, du T-800 trop nul, les 20 ans de Fort Boyard, une série où ça ne pisse pas très haut, 16h30 est l'heure idéale pour regarder une telenovela. Le retour de Cri-Cri d'amour des petits films à, des petits films à la télé et l'inévitable Brigade de Berlin.
Dans un moonwalk, ils ont manqué tout ça. Grâce à diffusion différée, vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission, ainsi retrouver des chroniques écrites, fouiller dans nos archives, jouer des quiz stupides, laisser vos commentaires, poser vos questions. N'hésitez pas, il suffit d'aller sur le site web
supplementweekend.fr.
Vous écoutez FMR sur...
Radio FMR
sur 89.1 MHz. Il y en a qui n'écoutent pas, hein. Nous
non,
sommes
non,
en direct
en, train de brancher, Coco.
En alternance avec
Boussou FM,
bien. Ouais. Et on continue sur www.radio-fmr.net. Dans le prochain épisode, Xavier,
moi j'ai un guide de la bande dessinée à Paris. J'ai un autre bouquin signé Chanoana et Chapelle chez Des Singes et Hugo. J'ai les Gardiens du Masseur qui ressortent en intégrale. Et encore tout plein de bouquins, ouais.
Moi j'aurai des Firefox, j'aurai des grosses bastons de robots géants. Et voilà.
Toi tu as tapé ta semaine au ciné.
Comme a dit Sabrina, il faut que j'aille voir Megan Fox.
Mais bien sûr. Bon, elle se rattrapera la prochaine. Le prochain film que vous irez voir, c'est elle qui choisira.
Oh bah c'est.
Oh, tout. Ça.
Ou l'autre.
Ou l'autre. Elle adore les films de baston.
Ouais, voilà, ça bien, adore les robots géants.
Tu sais, Boulit, c'est pas pour les dialogues qu'elle est allée les voir. Hein. Allez, ciao. Excuse à Sabrina et à tout le reste. Et n'oubliez pas d'aller voter pour les top 5 sur le site supplementweekend.fr.
On vous attend.
Et des bouquins à gagner si vous inscrivez. Voilà, ciao, bye.
Tchuss.
De Carrefour, chacun cherche sa place. La vie est un parcours, la voie que chacun trace. Mais gare au Carrefour à ne pas prendre une impasse, car si tu te gourres, pour le demi-tour, t'as pas l'espace. Oui, c'est ça la vie, c'est un jeu, c'est un peu aussi comme un grand livre ouvert sur une page blanche. Ou bien si tu préfères, qui s'écrit quand on le lit. Pas encore une table, juste un tas de planches, on peut dire ça aussi. L'existence, écoute ces paroles. Toi tu choisis le sens, moi je ne suis que la boussole. Une espèce de GPS 100% efficace. Cette phrase de Herman Hesse que je te dédicace. En côte, le vélo, c'est plus fatigant qu'en descente. Quand j'hésite, je médite, cette maxime épatante. Depuis, je suis en paix avec mon âme. Le jour, je fais du coaching, la nuit, je fais du slam. Carrière professionnelle, relations sentimentales, problèmes personnels. J'improvise en freestyle des tas de conseils. Mais bien sûr, le principal, ce sont mes qualités d'écoute. On s'en rend compte quand je parle. Si tu souhaites être accompagné de manière structurante, en vue de surmonter des difficultés récurrentes, le recours au coaching peut s'avérer crucial. Viens parler à mon cul quand ta tête est mal.
Allez. Viens parler à mon cul.
Viens.
Quand ta tête est mal.
Vite fait, un petit peu de sport.
À mon cul.
Viens parler.
Quand ta tête est mal.
La première étape.
Avec des gens qui ont été pris par la patrouille en hockey sur glace.
Si tu n'en as pas.
Un joueur de Grenoble a été contrôlé positif, donc c'est le défenseur suédois Kalle Bergström. Mais il n'a pas, d'après ce qu'il va dire, de toute façon, il n'a pas cherché à se doper pour améliorer ses performances.
Prendre en charge, les frais
parce qu'il est asthmatique sévère et donc il aurait fait une crise avant le match et pris un corticoïde de la prednisolone qui ne figurait pas sur la liste de son autorisation à usage thérapeutique. Donc quand ils sont malades, ils ont le droit d'utiliser certains médicaments, mais il faut que la liste des médicaments, l'ordonnance donc, soit suivi par l'Agence mondiale antidopage de telle manière à ce qu'il puisse être autorisé à prendre ce produit, mais dans une plage de temps déterminée, bien entendu.
Avancez dans la vie.
C'est ça. Le, qui je suis. Le problème, c'est que c'est pas le seul. Et la Fédération française de hockey sur glace à cette occasion a communiqué donc le nombre de joueurs positifs lors de la saison 2008-2009 en hockey sur glace.
C'est fou, c'est ton style.
22 sur 241 contrôles. Ouais, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Un bon ratio, quoi.
Va juste chercher.
3 en Ligue Magnus, hein, c'est-à-dire la ligue la plus élevée, la Division 1, prednisolone et corticostéroïdes. 8 en Division 1, c'est-à-dire la Division 2 ou la Ligue 2, dont 5 au cannabis et 3 à la nandrolone. Et un peu plus bas dans les autres divisions, bah, c'est uniquement du cannabis, hein, avec 4 en D2 et 7K en D3, mais au cannabis. Donc bien entendu, le cannabis qui améliore les performances quand tu fais du hockey sur glace, c'est clair.
Mais non, je ne cherche pas à te faire entrer au modem.
Du sport dans nos murs avec déjà le Toulouse Olympique qui joue le championship, hein, le championnat anglais, mais pas la première ligue de rugby à 13 en Angleterre. Non, pas comme le 13 catalan, hein, les dragons catalans qui en sont à leur troisième saison. Eux, ils vont essayer de rentrer. Ils ont voulu rentrer, hein, mais on leur a dit non, d'abord une division inférieure et tout. Où depuis 4 ou 5 matchs, ils cartonnent à fond les manettes. Et là, c'est à Blagnac ce soir, à partir de 20h. Le Toulouse Olympique reçoit Featherstone, donc. Et du volleyball également. C'est demain soir à 19h30 au Palais des Sports. Hein, c'est dans le cadre de la Ligue mondiale de volleyball, les séries qualificatives. Hein, et 4 nations par groupe, et il faut terminer à la première place donc pour faire partie de la phase finale. Et le match France-Corée du Sud, ils ont joué hier à Marseille, la France a battu la Corée du Sud 3-7-1. Et demain soir à 19h30, ils seront à Toulouse, donc l'équipe de France de volleyball au Palais des Sports pour bien cette entre guillemets revanche contre la Corée du Sud.
Acheter du riz, j'espère tirer un bon prix d'un vieux 33.
19h30 donc, volleyball, l'équipe de France rencontre l'équipe de Corée du Sud au Palais des Sports, pas au Petit Palais des Sports.
Du lait, tout n'arrête pas d'augmenter. Le prix du blé, du riz, du lait, à cause de la crise financière. La vie est de plus en plus chère. Les soirs, les mères, pour nourrir leurs enfants, ne leur servent plus que des pâtes sans jambon blanc. Monsieur le curé a ouvert sa table aux indigents, craignant qu'à ce régime, ils finissent tous musulmans. En France, grâce à l'action gouvernementale, on ressent moins les effets de la crise mondiale. Je veux dire qu'on sait plus si c'est à cause de la crise mondiale ou de l'action gouvernementale qu'on vit mal. Et demain ce sera pire, prédisent les oracles. On va pas s'en sortir, ou alors.
56 radio éphémère, 89.1 MHz. À la télé, ça va démarrer là dans quelques instants, c'est sur Eurosport, hein. Moto Grand Prix, c'est le Grand Prix du Pays-Bas, et comme d'habitude, ça se court le samedi, pas le dimanche. C'est comme ça chez les protestants. Course, départ de la course Moto Grand Prix, donc avec actuellement bien 3 pilotes qui sont en tête du championnat conjointement. Valentino Rossi, le champion en titre, Casey Stoner, son prétendant le plus chiant, mais également Jorge Lorenzo, le coéquipier de Valentino Rossi dans la même équipe Yamaha que Rossi. C'est cet après-midi, donc à partir de 14h, là pratiquement tout de suite dans quelques minutes, le départ du Moto Grand Prix du Pays-Bas. 14h, à partir de 14h également, les internationaux de tennis de Wimbledon, soit sur Sport Plus, soit sur Canal Plus.
Des Français.
En volley, il y a également la Ligue européenne féminine, Grande-Bretagne-France, à partir de 16h cet après-midi sur ma chaîne Sport. C'est le début également des Jeux méditerranéens en natation où ça chie, hein, parce que l'histoire des combinaisons, ils font tout et n'importe quoi, les dirigeants. Enfin bon, c'est on se demande, hein, les records n'ont pratiquement plus aucune valeur, hein, on se demande quoi, par rapport aux records ancestraux en slip de bain et tout, maintenant avec les combinaisons qui te font flotter, tu comprends plus rien. où les nageurs sont pas contents du tout, du tout. Néanmoins, les Jeux méditerranéens, avant les prochains championnats du monde, hein, qui vont bientôt avoir lieu, les Jeux méditerranéens donc démarrent aujourd'hui en Italie à Pescara et sont diffusés à 18h sur Eurosport. Il y a également de la boxe, hein, je voulais vous en parler, mais bon, pas le temps, quoi. Un championnat du monde WBA demi-finale poids lourd léger, Jean-Marc Monrose contre Steve Erelius. C'est une revanche car au match au précédent combat qu'ils avaient eu tous les deux, c'est Erelius qui l'avait emporté au point après 10 rounds. C'est ce soir sur Canal+ à partir de 22h20 dans le cadre de la réunion du Canet Côte d'Azur. Là, on a plus ou moins vite fait entendu les malpolis là. Nouvel album enregistré en public.
Y a plus grand chose d'abordable. Supermarché va nous sauver. Le prix de la merde reste stable.
Tout de suite là à 14h, on va commencer avec 5 nouveautés, pas plus. Ensuite une grosse page 24 minutes, 25 minutes de...